Le progrès chrétien, par George Whitehead, deuxième partie, suite, le début des emprisonnements. Peu de temps avant que je ne fusse incarcéré, James Lancaster et Christopher Atkinson furent incarcérés dans la même prison, bien qu'ils fussent arrivés à Norwich quelque temps après moi. James fut emprisonné pour avoir appelé les gens à la repentance sur le marché de Norwich. C'était un ancien ami fidèle qui parcourait la région, et dans plusieurs villes, il prêcha le jour puissant du Seigneur afin d'amener les gens à la repentance. Christopher Atkinson conserva une conduite ordonnée tandis qu'il était en prison avec James et moi, mais après notre libération, étant resté seul, il se relâcha et sa conduite devint scandaleuse. Sa chute attira une grande réprobation sur notre sainte profession parmi ceux qui cherchaient le moindre moyen de nous critiquer, nous et la vérité que nous professons. Dans la prison de Norwich, nous fûmes maltraités par un, le geôlier, qui exigeait de nous 3-4 pences par nuit pour partager un seul lit. Il nous semblait une dure mesure d'exiger 12 pences par nuit de prisonniers pour un pauvre lit. Il força 3 hommes à être entassés ensemble dans une chambre froide, tandis qu'un autre prisonnier avait un lit pour lui seul. N'ayant pas la liberté de satisfaire le geôlier dans son oppression et son avidité, et craignant de demander à l'un de nos amis de nous procurer un meilleur logement en prison, nous jugeâmes nécessaire de dormir sur les planches nues du plancher, en gardant nos vêtements, avec peu d'autres couvertures. Ainsi logeâmes-nous, 8 semaines ensemble durant le froid de l'hiver, et bien que nous endurassions beaucoup de froid, nous fûmes généralement préservés en bonne santé par la miséricorde du Seigneur. J'aurais pensé qu'une telle épreuve dépassait ce que je pouvais supporter, ayant été élevé avec douceur par mes parents, et j'étais alors très jeune, à peine âgé d'environ 18 ans cet hiver-là. Pendant que nous étions prisonniers, notre cher ami Thomas Simon fut emprisonné avec nous pour avoir seulement posé une question à un prêtre dans l'église après le sermon. À la session suivante pour la ville, James Lancaster et moi fûmes conduits au tribunal devant le juge Charles George Cock. Il s'offensa grandement contre nous parce que nous ne retirions pas nos chapeaux au tribunal, ce à quoi nous ne pouvions, pour des raisons de conscience, nous soumettre, ni rendre un tel hommage à un homme mortel. Astérisque, il sembla prendre cela pour un grand mépris du tribunal et de leur autorité, plaidant qu'il fallait respecter les supérieurs comme le devoir des serviteurs envers leur maître. Je fis valoir que les serviteurs doivent accomplir leurs devoirs et servir leur propre maître, non avec un service Dieu comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, tandis qu'ôter son chapeau et s'incliner devant les hommes, et ainsi faire acception des personnes, n'est qu'un service Dieu, une complaisance envers les hommes, et non un véritable service ou devoir envers les supérieurs ou le gouvernement. J'ajoutai que nous ne connaissions aucune loi enfreinte par le fait de garder nos chapeaux, pas plus que par le fait de porter le reste de nos vêtements, et que nous ne voulions témoigner aucun mépris envers l'autorité. Après quelques mots sur ce sujet, je supportai patiemment les menaces et insultes du juge, demeurant immobile en silence. Astérisque refut d'ôter le chapeau en signe de respect à cette époque en Angleterre. On portait le chapeau à l'église, le clergé prêchait avec, on le portait au dîner et en règle générale, plus couramment qu'à l'époque moderne. Les rares occasions où l'on l'enlevait étaient des marques de respect plus nettement significatives. Un fils devait toujours se découvrir devant son père, chacun se découvrait devant le roi, et se découvrait devant toute personne de rang ou de position, comme la noblesse. Les Quakers appelèrent cela l'honneur du chapeau, rat honor, qu'ils refusaient de rendre à l'homme, y compris au juge au tribunal, ce qui les exposait à des amendes ou à l'emprisonnement pour ne pas s'être découverts en signe d'honneur. Ils notaient leur chapeau qu'en prière, comme acte de culte. Ainsi, ils inversaient elle honneur du chapeau, où au lieu de le rendre à l'homme et de le refuser à Dieu, ils le rendaient à Dieu et le refusaient à l'homme. Au tribunal, John Bolton m'arracha soudain mon chapeau ainsi que ceux des autres amis, ayant l'intention d'apaiser le juge afin d'empêcher que nous souffrions davantage. Il était venu de Londres avec quelques amis pour nous rendre visite. Cependant, nous fûmes renvoyés en prison, dans ce lieu de détention froid. Le même jour, notre ami John Bolton fut soudain et vivement tourmenté dans sa conscience pour nous avoir arraché nos chapeaux, et il ne put trouver le repos en lui-même avant de retourner au tribunal et de faire une confession publique contre lui-même, condamnant ce qu'il avait fait en ôtant nos chapeaux. D'après ce que j'ai entendu, lorsqu'il retourna au tribunal, le juge déclara qu'il pensait que ce que John avait fait ne serait pas conforme aux principes des Quakers. Voyez combien l'injustice était plus grande encore de vouloir nous pousser ou nous imposer cette pratique, tout en sachant qu'elle était contraire à notre principe et par conséquent à nos consciences. John Bolton fut sincère et consciencieux dans la reconnaissance publique qu'il fit contre lui-même pour ce geste si soudain destiné à apaiser le juge. Et bien que John n'eût pas été depuis longtemps Quaker de profession, il persévéra dans le zèle et la vérité jusqu'à la fin. On peut observer que le juge de la cour des sessions à Norwich avait été averti avec douceur, au préalable, par une lettre de notre part, nous qui étions prisonniers, contre la conduite même qu'il adopta contre nous en session. Pourtant, bien que je fusse libéré par le juge, je fus ensuite détenu quelque temps en prison par un le geôlier, prétendant qu'il avait intenté des actions contre nous pour ce qu'il réclamait comme une dette que nous lui devions pour notre logement. Ainsi nous restâmes enfermés en prison, sous les mêmes épreuves durant le froid de l'hiver, pendant 8 semaines ou davantage, jusqu'à ce que ce même geôlier mourût. Alors nous fûmes réellement libérés de prison, de sorte que le Seigneur nous délivra en ôtant notre oppresseur sans miséricorde. Vers cette époque, une proclamation fut publiée par le Commonwealth, dans laquelle de nombreux principes justes étaient affirmés au sujet de la liberté de conscience. Cependant, elle n'annonçait aucune nouvelle faveur aux Quakers, qui, en compagnie des rentés, dont ils ont toujours désavoué les principes et les pratiques, furent jugés indignes d'une liberté supplémentaire, comme agissant d'une manière opposée à la liberté et à l'indépendance des autres. Cette accusation visait sans doute l'esprit très actif dont les amis faisaient preuve dans la propagation de ce qu'ils considéraient comme la vérité évangélique, cause dans laquelle ils étaient souvent conduits à faire des déclarations publiques dans les rues, les marchés et les foires, ainsi que dans les lieux habituels de culte lorsque les offices ordinaires étaient terminés. Commentaire de l'éditeur du site, cela renvoie à la description, par Paul, d'un service de culte ordonné, où si quelqu'un a une parole venant de l'esprit, celui qui parle est censé céder la place à la personne qui demande à parler. Les Quakers avaient généralement pour pratique d'attendre que l'orateur ait terminé puis, en citant l'écriture qui soutient le droit d'un autre à parler, de demander la permission de s'adresser à l'assemblée du prédicateur de la lettre. Peu après l'incarcération de George Whitehead à la prison de Norwich, une réponse à la proclamation fut publiée, signée par lui et deux de ses compagnons de captivité. On en a tiré les extraits suivants, avec lesquels nous reprenons l'abrégé de ses propres récits. La proclamation visait ces gens qui, ouvertement et avouément, par des pratiques grossières et non chrétiennes, troublent tant les assemblées chrétiennes publiques que privées dans leurs exercices religieux du culte de Dieu, par quoi la liberté de l'Évangile, la profession de la religion et le nom de Dieu sont grandement déshonorés et abusés. Beaucoup d'exemples de telles pratiques ont été rapportés de la part de ceux qui portent les noms de Quakers et de rentés, et de telles pratiques sont désapprouvées chez tous et proclamées contre, comme contraires à la juste liberté et à l'indépendance dans lesquelles le peuple de ce Commonwealth doit être protégé, etc. Réponse. La puissance, reçue immédiatement de Dieu, conduit à la vraie liberté et à la vraie indépendance en ce qui concerne la conscience, et la loi pure de Dieu, venue de la même puissance, saisit ce qui opprime la bonne semence, et la conscience aussi. Et bien que la liberté de conscience et la liberté de piété aient été longtemps feintes et promises, pourtant elles ne sont pas encore réalisées, ni accomplies envers ceux qui ont été contraints de déposer leur vie pour cette liberté de conscience ainsi promise et professée. Or, lorsque le Seigneur nous a éclairés par sa vraie lumière et nous a amenés à marcher avec une conscience pure envers Dieu et envers les hommes, nous trouvons plus de tyrannie, de cruauté et de machination contre nous que jamais ce qu'on tenait pour ennemis du Commonwealth n'en ont inventé pour nous ôter la vie, bien qu'aucun homme ne puisse nous imputer aucun mal qui ait été fait ou commis, ni aucune loi enfreinte par nous. Mais pour avoir déclaré librement la vérité, telle qu'elle nous a été manifestée par le Seigneur, contre toute tromperie et toute injustice des hommes, nous sommes enfermés et étroitement gardés dans des trous et des prisons, parmi des voleurs et des meurtriers. Voilà la récompense et la liberté que nous recevons du monde pour leur avoir déclaré la vérité éternelle de Dieu, qui nous a appelés, et que nous ne pouvons renier pour l'avantage du monde. Matt 5, 11-12. Pour avoir rendu témoignage, dans la vie et la puissance, de ce à quoi cette protection est promise, beaucoup souffrent maintenant en Angleterre et sont privés de leur liberté dans l'exercice de la piété, bien qu'on ne les trouve coupables d'aucune de ces pratiques non chrétiennes que l'acte proclame contre elles. Le peuple appelé Quakers n'impôt à la conscience de ses frères, ni à celle de quiconque, quoi que ce soit qui puisse asservir leur juste liberté ou indépendance dans les choses de Dieu. Au contraire, ils désirent la liberté de tous les autres, afin que toutes les servitudes et entraves soient ôtées des consciences de tous les hommes en matière de culte rendu à Dieu. Pour acquérir cette liberté, nous souffrons liens et emprisonnement, coups, lapidation, mise au cep, et autres traitements cruels, de la part de ceux qui se disent chrétiens, magistrats et gouvernants dans ce Commonwealth. Et quant aux nombreuses doctrines que l'on dit être émises au sujet de telles pratiques par ceux qui portent les noms de Quaker et de Ranté, CAD. Des pratiques grossières et non chrétiennes qui sont désapprouvées. Nous répondons, nous nions absolument les principes et les pratiques des rentés, lesquels, s'étant détournés de la lumière du Christ, qui est pure dans la conscience, se sont jetés dans la liberté de la chair, dans toute impureté, et dans la pratique de ces choses qui attirent les fléaux de Dieu, et sur lesquelles doivent être répandues les coupes de la colère de Dieu. Notre emprisonnement, injuste dans le château et la ville de Norwich, peut apparaître clairement à toute personne de bon entendement comme contraire à la liberté et à la protection, telles qu'elles sont universellement promises et proclamées. Nous sommes appelés par l'Esprit éternel du Dieu vivant, quittant nos demeures terrestres, à déclarer librement et à manifester la parole éternelle de Dieu et les puissances du monde à venir. Nous déclarons et montrons, par l'Esprit éternel, sans convoiter l'argent ni l'or de personne. Nous déclarons gratuitement ce que nous avons gratuitement reçu de Dieu, par amour pour les âmes de tous les peuples, afin qu'eux aussi puissent être participants avec nous de la vérité puissante de Dieu. Ainsi leurs âmes pourraient vivre dans la vérité et connaître le Dieu pur, que tout le monde, dans son premier état, ignore et dont il est ennemi. Samson Townsend, tisserand de métier, avait endossé l'habit et la fonction de prêtre dans la paroisse d'Austin à Norwich. Après notre incarcération, pour se rendre célèbre, il publia un pamphlet afin de nous diffamer. Ainsi, en plus de nos mauvais traitements et de la sévérité de notre détention, pour ajouter l'affliction à nos chaînes, il nous accusa d'être en prison à Norwich pour des erreurs et des fautes, comme niant la parole de Dieu et les Écritures, etc. Ce dont l'envie et le mensonge furent publiquement démasqués. Comme il se montra malveillant et animé d'un esprit de persécution, s'efforçant d'irriter les magistrats et le peuple contre nous en nous diffamant et en nous couvrant d'opprobre, se rendant ainsi infâme, de même, il se montra ignorant et superficiel en disputant contre nous dans diverses réunions par la suite, tant à Norwich, chez Joseph Whitlock, qu'à Refham dans le Norfolk. À Refham, je le confondis et le mis à nu lorsqu'il plaidait pour l'aspersion des nourrissons comme baptême du Christ. Après que Townsend eut déménagé à Refham, j'y tenais une réunion. Il vint pour me contredire, mais y fit peu d'ouvrage, car il fut manifestement confondu, n'admettant pas que la parole existait avant que les Écritures ne fussent écrites. Il affirma que les Écritures étaient la seule parole de Dieu, ou la seule parole, ce qui était son ancienne objection contre nous lorsque nous étions en prison à Norwich, à cause de notre témoignage que le Christ est la parole, qui était au commencement. À cette réunion, je lui dis que la parole du Seigneur vint au prophète, disant, « Et voici les paroles de Jérémie, à qui la parole du Seigneur vint. Par cette écriture, on distingue la différence entre la parole qui vint au prophète et les paroles ou propos qui vinrent de la parole. Car dire la parole du Seigneur qui vint au prophète disant n'est pas la même chose que dire « les Écritures vinrent au prophète disant » ou que les Écritures vinrent si souvent à lui et prononcèrent ses discours, paroles et prophéties, comme le fit la parole vivante, et qui n'était pas écrite dans les Écritures avant que la parole eût révélé les prophéties aux prophètes. Les saintes Écritures ou écrits contiennent les paroles ou les vrais propos de la parole éternelle, c'est-à-dire de Dieu et du Christ, tels qu'ils furent donnés et révélés à ses serviteurs, ses prophètes et ses ministres, des hommes saints de Dieu parlèrent comme ils étaient mus par le Saint-Esprit. Ce que Jean reçut l'ordre d'écrire, ce furent les vrais propos de Dieu. Mais du Christ il dit, son nom est appelé la parole de Dieu. Et je pense qu'il ne s'agit pas de mépriser, encore moins de témoigner du mépris envers les saintes Écritures, que de les reconnaître comme les paroles ou les vrais propos de Dieu, sans leur attribuer le même nom ou titre, qui convient plus proprement au Christ ou à Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1:1-4 Après notre échange à la réunion de Refham, tandis que je quittais la ville à cheval, la parole du Seigneur vint sur moi, pour avertir les gens dans la rue de se repentir. À cause de cet avertissement, ils me traitèrent avec méchanceté, me lapidant avec fureur. Cela fut si violent que je pouvais à peine faire tenir mon cheval en place, ou lui faire supporter l'endroit où je leur déclarais la vérité, jusqu'à ce qu'ils se calment davantage tandis que je déchargeais ma conscience envers le peuple. Car le Seigneur se tint près de moi et me préserva et me défendit par sa puissance et sa miséricordieuse providence, de sorte que je fus très peu blessé par toutes ces pierres. Par leur lapidation, ils montrèrent quel fruit leur ministre, mon opposant, avait produit par son opposition acharnée et envieuse contre nous. Et maintenant, pour revenir à mon récit, lorsque James Lancaster et moi fûmes libérés de la prison de Norwich, ce qui eut lieu au premier mois appelé mars, 1654-5, le geôlier était mort, et sa femme avait été plus compatissante que lui. Je crus que la main particulière du Seigneur avait été dans notre délivrance, et je lui rendis de grandes actions de grâce d'être sain et libre, mais nous laissâmes Charles Atkinson encore en prison. Peu de temps après ma libération, j'allais voir l'un des prisonniers. Lors de cette visite, je fus appréhendé et conduit devant Thomas Toft, le maire, qui m'envoya de nouveau en prison. Je fus détenu environ 3 semaines, sans aucune preuve ni même l'ombre d'une transgression de la loi contre moi, mais seulement par la volonté arbitraire et le préjugé du maire. Cependant, le Seigneur ne lui permit pas, ni à eux, de me retenir longtemps, ayant pour moi d'autres œuvres à accomplir pour l'amour de son nom et de sa vérité. La raison pour laquelle Charles Atkinson demeura en prison après les autres fut en partie une action, ou une saisie intentée contre lui par un avoué, pour lui avoir adressé des paroles imprudentes ou dures, qu'il jugeait susceptibles de poursuites. De plus, le prêtre qui alors avait l'habitude de prêcher aux prisonniers saisit l'occasion de se plaindre de lui, sinon d'intenter une autre action contre lui, pour certaines paroles par lesquelles le prêtre s'estima offensé. Toutefois, Charles Atkinson n'était pas tout à fait aussi prudent ni aussi doux dans sa conduite qu'il aurait dû l'être, et ce n'était pas tout. Pire lui arriva après qu'il fut resté seul en prison, car bien qu'il eût plus de liberté et de meilleures conditions que lorsque nous étions ensemble en prison, il tomba dans une trop grande familiarité et conversation avec certains qui inclinaient à un esprit de rentrisme. Il se relâcha et devint insolent contre le Christ, sa lumière et sa vérité. Et à un certain moment, ayant reçu un peu de liberté, Richard Clayton et moi le rencontrâmes dans la maison d'un ami à la campagne. Voyant qu'il s'était abandonné à trop de légèreté et de licence, nous le rencontrâmes seul dans un champ, et l'admonestâmes et le mîmes sérieusement en garde, ce qu'il supporta à peine sans manifester colère et émotion. Je craignais ce qui pourrait lui arriver, ou ce qu'il deviendrait, à tel point qu'il me fut secrètement dit de restreindre mes contacts avec lui, de sorte que par la suite, j'eus à peine la liberté de lui rendre visite en prison. Il avait été trop influencé par quelques personnes faibles et indiscrètes, et enflées au-delà de sa mesure, à son propre détriment, et aussi au détriment d'autrui. Après quelque temps, son iniquité éclata, comme mon cher frère Richard Robeson m'en donna avis, puisque j'étais alors dans le Haut Suffolk et en d'autres lieux, travaillant à l'œuvre du Seigneur. Lorsque Richard Robeson et Thomas Simon se rendirent chez Charles Atkinson, il leur dit qu'il n'y avait pas de rédemption pour lui. Ainsi, il fut tenté au désespoir par l'ennemi qui avait prévalu sur lui, pourtant il rendit un sévère témoignage de condamnation contre lui-même. Quand j'appris son terrible égarement, cela m'apporta une profonde tristesse, jusqu'au deuil solitaire et aux larmes, à cause de lui et de nos pauvres amis innocents qui avaient reçu récemment la vérité, sachant que tous souffriraient grandement et seraient couverts d'opprobre à cause de ses manquements. Cependant, le Seigneur me ranima au bout de peu de temps et me mit d'autant plus à cœur de travailler et de voyager dans ces régions, pour affermir les faibles, aider et consoler les chancelants, et défendre la vérité bénie et la voie. Il me fit exalter et établir la vérité au-dessus de toute tromperie, de toute méchanceté, des rétrogrades et de ceux qui se tournent vers les tentations du monde. Je savais bien, et je rappelais aux amis et aux autres, que la vérité est la même et ne change jamais, et qu'elle ne doit pas être blâmée, mais que ceux qui lui tournent le dos sont condamnables, et que le jugement les suit. Le Seigneur se tint près de moi dans ce service et, par sa puissance, m'aida et me fortifia afin que je fortifie et aide beaucoup d'autres, de sorte que les effets du scandale furent diminués et sans tort ni dommage dans ces contrées, gloire et domination à notre Dieu et à l'Agneau, au siècle des siècles. Après ma seconde libération de prison, je voyageai dans le Norfolk et le Suffolk vers Angus, Lama et ses régions, ainsi qu'à Lindbam, Ramplingham, New Buckingham, Gissing, Dis et Sealham. Mon cher ami et frère Richard Clayton m'accompagna à quelques réunions dans le Norfolk, du côté de la contrée près d'Elesham et de Lama. On y trouvait des gens honnêtes et disposés, qui cherchaient le Seigneur et sa vérité vivante, leur cœur était préparé à recevoir l'amour de la vérité. Je me souviens bien de la manière dont le Seigneur ouvrit mon cœur et m'élargit dans le témoignage de l'Évangile envers ces gens. C'était en grande partie un témoignage sur l'amour et la grâce universelle de Dieu, sur la lumière du Christ en chaque homme, et pour tourner leurs esprits vers elle. Je leur dis d'attendre de connaître les enseignements de Dieu et d'entrer dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, où tout le peuple du Seigneur est enseigné de lui et le connaît, du plus petit au plus grand, et témoigne de sa loi écrite dans leurs cœurs et de son esprit dans leurs parties intérieures, selon ses bienheureuses promesses, et cette alliance nouvelle et éternelle, prophétisée par les saints prophètes évangéliques. Dans cette nouvelle alliance, non seulement la maison d'Israël et de Juda peut avoir part et être participant au Christ, mais aussi tous les gentils qui croient véritablement, à qui le Christ est donné pour une lumière et pour une alliance, et pour être le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, car Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi celui des gentils, et les vrais Juifs et le véritable Israël sont ceux qui le sont spirituellement, Juifs au-dedans par la circoncision spirituelle du cœur envers le Seigneur, par son Saint. Afin d'entrer sous cette dispensation et ce ministère de la Nouvelle Alliance, et d'y connaître et expérimenter le Christ comme leur ministre, leur maître, leur souverain sacrificateur et prophète, les gens furent exhortés à cesser de s'appuyer sur l'homme, et sur tous leurs ministres et prêtres, faits par la volonté de l'homme, et à se retirer des ministres mercenaires, qui prêchaient pour un lucre honteux et pour le gain, faisant commerce des saintes écritures, y ajoutant leur propre divination, sens et notions. De tels ministres n'avaient aucune révélation divine ni aucune commission du Christ pour prêcher, encore moins pour faire commerce des paroles et témoignages des saints prophètes, de Jésus-Christ ou de ses apôtres. Ces ministres faits par l'homme marchaient à l'encontre des enseignements du Christ dans leurs voies et leurs pratiques, avec orgueil et cupidité. Le Seigneur imposa souvent à moi, et à d'autres de ses serviteurs, le devoir de témoigner contre l'orgueil et la cupidité des prêtres, et contre leur prédication à prix d'argent, pour les dîmes et une subsistance forcée, contrairement au commandement du Christ et à l'exemple de ses ministres. À cause de cela, les ministres furent encore plus envieux contre nous, et dans leur chair, ils s'écrièrent et firent grand bruit pour exciter le peuple et les magistrats contre les Quakers, ainsi nommés, jusqu'à une persécution sévère et des emprisonnements. Cela rendit d'autant plus nécessaire, pour moi et pour d'autres serviteurs du Seigneur, de témoigner contre ces prêtres orgueilleux, cupides et envieux. Notre témoignage eut parfois lieu jusque dans leurs lieux publics, improprement appelés églises, pour détromper le peuple, afin qu'il ne fût plus mené captif ni excité contre la vérité par eux. Il demeure pour moi un souvenir très mémorable que, par une prédication inspirée par l'Esprit de la Lumière, de la Nouvelle Alliance, de la parole proche des gens dans leur cœur, et oui, de l'Évangile de la grâce gratuite et de l'amour de Dieu en Christ envers l'humanité, beaucoup furent réellement et efficacement convaincus et persuadés de la vérité bénie et toujours vivante, telle qu'elle est en Jésus-Christ. Cela se produisit dans les comtés de Norfolk, Suffolk et Essex, où le Seigneur, dès le commencement, me conduisit à voyager, et il m'aida et me fit prospérer dans son service, béni et loué soit son nom à jamais. Lorsque j'étais à la réunion de Mendelsham, chez Robert Duncan, en 1655, George Fox le jeune astérisque, un homme du Suffolk, fut efficacement convaincu, et il reçut la vérité, ayant alors tout juste quitté l'armée du Parlement en Écosse. Astérisque sans lien de parenté avec George Fox, fondateur et ancien principal des Quakers, bien qu'il n'eût que 29 ans au moment de cet écrit. Le plus jeune des deux était appelé le jeune Ougière. Je ne puis omettre un passage remarquable. John Lawrence avait été membre d'une congrégation ou église indépendante à Norwich, et parce qu'il les avait quittés et nous avait reçus, nous et nos amis, leur pasteur, Timothy Armitage, et leurs anciens le mirent en cause et résolurent de l'excommunier. Au printemps de cette même année 1655, il fut convoqué à leur assemblée à Norwich dans leur église paroissiale, appelée George's Tomb Blanc. Je m'y rendis avec lui, ainsi qu'Edmund Bedwell, son beau-frère, qui portait encore son épée. Je le lui reprochai, pensant qu'ils en prendraient occasion contre lui et contre nous, comme certains le firent ensuite. Il y avait une grande foule d'hommes et de femmes réunis avec leurs pasteurs et leurs anciens, et ils répétèrent leurs accusations contre John Lawrence, à savoir, avoir abandonné leur communion, recevoir des étrangers, ou des personnes dangereuses, ou soutenir des doctrines dangereuses. Pourtant, ils ne pouvaient discerner aucun fait ni aucune erreur qu'ils puissent prouver contre lui. Et en donnant ses raisons d'avoir quitté leur église dont il avait été membre, il répondit selon la doctrine de l'apôtre Paul, qui exhorte à se détourner de tels hommes qui ont l'apparence de la piété mais en renient la puissance, des hommes orgueilleux, téméraires, hautains et cupides. Car bien qu'ils puissent avoir une apparence ou une profession de piété, ils ont renié la puissance, et de tels gens, nous devons nous détourner. John Lawrence donna la même raison pour expliquer pourquoi ils s'étaient détournés d'eux. Bien qu'ils eussent une apparence ou profession de piété, ils en niaient la puissance, et par conséquent, ils pouvaient à juste titre s'en détourner. Après cela, dans la crainte et le tremblement du Seigneur, je me levai pour leur déclarer quelques paroles, mais ils me firent rapidement rasseoir et par la force me tinrent assis dans le banc où nous étions, et certaines de leurs femmes orgueilleuses près de nous exprimèrent leur rage et leur envie contre moi en particulier. Quelques-uns de leur église me traînèrent de force et me poussèrent hors de l'église, et m'exposèrent à une foule grossière qui se tenait prête à porter sur moi des mains violentes. Ils me poussèrent et me traînèrent à travers les rues et la place du marché de la ville, me jetant parfois sur les pierres, ce qui me meurtrit et me fit mal. Toutefois, la blessure que j'en reçus, le Seigneur voulut la faire disparaître en peu de temps. Ils me suivirent et m'encerclèrent, me poussant en rugissant et en criant, jusqu'à ce que j'approche de la porte de la ville appelée Gilgat, près d'un petit pâturage, à l'extrémité supérieure duquel je vis une grande maison, où, comme je l'appris ensuite, demeurait Lady Hubbard. À sa vue, j'hésitai et je demeurai arrêté en mon esprit, le tumulte étant grand autour de moi. Devais-je alors sortir de la ville pour aller vers Ramplingham chez John Lawrence, ce que je désirais, ou devais-je aller vers la grande maison, demandant au Seigneur de me diriger à cet instant? je considérais que si je sortais de la ville pour prendre la grande route vers Ramplingham, je pourrais être en danger de perdre la vie sur la route ou dans les champs, du fait de cette compagnie violente et tumultueuse qui m'entourait, et cela se remarquerait moins. Si je devais perdre la vie, il valait mieux mourir là où mon témoignage devait être porté, dans la ville de Norwich, où ma persécution avait commencé, plutôt que de perdre ma vie plus clandestinement à cause du tumulte hors de la ville, ou au loin dans les champs, car j'étais abandonné à laisser faire toute violence que le Seigneur pourrait leur permettre de m'infliger. Après mûre réflexion, je me dirigeai aussitôt vers la maison de Lady Hubbard, la troupe enragée continuant à m'entourer, à cause de leur bruit et de leurs cris, l'aumônier de la dame, le DR Collins, comme on l'appela ensuite, et la plupart des gens de la maison sortirent pour voir ce qui se passait et pourquoi une telle foule se trouvait devant la maison, et ils virent que j'étais la personne assiégée et persécutée. L'aumônier, comprenant qui j'étais, entreprit de s'entretenir avec moi au sujet de l'esprit qu'avaient les apôtres du Christ. Il demanda si j'avais le même esprit. Je reconnus que, dans une mesure différente, j'avais le même esprit, bien que je ne voulusse pas égaler mon degré d'accomplissement au leur. L'aumônier me souhaita de prouver que j'avais le même esprit par quelques signes ou miracles, comme les apôtres en faisaient, ou bien, demanda-t-il, si je pouvais parler en langue par un don de l'esprit, et non par une capacité acquise par l'apprentissage humain. Je lui répondis selon les paroles de l'apôtre Paul en pareil cas, parlant de la diversité des dons donnés par un seul et même esprit. Comme je lui dis, tous ceux qui avaient l'esprit du Christ n'avaient pas tous ces dons, tels que celui des langues et des miracles, car à l'un est donné la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, et pourtant en tout, c'est le même. Il est évident que ces dons des langues et des miracles n'étaient pas communs à tous ceux qui avaient l'Esprit du Christ dans l'Église primitive, mais propres à certains, comme le montrèrent les questions ultérieures de Paul. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Impliquant que tous les ministres et membres de l'Église n'étaient pas ainsi doués en toutes ces choses, bien qu'ils eussent tous un seul et même esprit, d'où venaient ces dons? Je peux avoir par ce même esprit la parole de sagesse, la connaissance et la foi, et pourtant ne pas avoir le don des langues et des miracles. Cela ne signifie pas que seuls ceux qui ont des dons ont l'esprit. Je vis alors clairement que la manière de raisonner de l'aumônier, en ce cas, ne tenait pas. Lorsqu'il eut perçu combien la troupe autour de moi avait été tumultueuse et grossière à mon égard, il demanda pourquoi je ne les avais pas calmés ni réprimés, ou supposa que je le pouvais, si j'avais le même esprit ou la même puissance que les apôtres. Je lui répondis que l'apôtre Paul lui-même demanda à l'église des Thessalonians de prier pour lui, afin que le Seigneur le délivrât des mains des hommes déraisonnables, car tous les hommes n'ont pas la vraie foi. Il se trouvait donc parfois aux mains d'hommes déraisonnables, au milieu de tumultes, et le Seigneur le délivrait de leurs mains. Tandis que nous discutions de cela, mes persécuteurs se tinrent silencieux, comme en cercle, et nous entendirent sur les sujets rapportés ci-dessus. Notre discussion ne dura qu'un court moment, je suppose environ une demi-heure. Entre-temps arriva un soldat ou cavalier l'épée au côté, et il comprit que j'étais la personne persécutée et surveillée par cette troupe grossière. Comme je me retirais, il vint à moi et me dit qu'il m'accompagnerait et me garderait jusqu'à mon quartier, ou logement, et posant la main sur son épée, il ordonna à la foule de s'écarter pour faire place. Ainsi je fus délivré paisiblement, et il m'accompagna jusqu'à la maison de mon cher ami Thomas Simon, dans la ville. Je vis que c'était le Seigneur qui avait mis dans mon esprit d'aller vers Lady Hubbard lorsque j'étais dans une telle détresse au milieu du tumulte comme je l'ai relaté, et qu'un étranger fut finalement suscité pour me tirer des mains d'hommes si déraisonnables, qui m'avaient assiégé et maltraité avec violence. J'ai souvent rendu grâce à Dieu pour sa miséricordieuse providence dans cette délivrance. Le soldat qui prit tant de soins de me délivrer devint ensuite un ami et entra dans la société du peuple appelé Quakers, envers qui le Seigneur lui fit miséricorde. Il se nommait Robert Turney de Lane, dans le Norfolk. Je ne sus pas que c'était l'homme qui m'avait délivré avant 25 ans plus tard, lorsque je fus de nouveau prisonnier au château de Norwich, avec beaucoup d'autres amis, en l'année 1680. En ces jours-là, les prisons et geôles nous furent comme des sanctuaires, des lieux de refuge, de sûreté et de sécurité contre la fureur de la foule tumultueuse, bien que nous y rencontrions un traitement sévère et de rudes conditions, dans ces lieux de dure captivité, souvent parmi de notoires criminels. Bien que j'aie souffert tant dans les tumultes que dans les emprisonnements, par les mauvais traitements qu'on m'y infligeait, le Seigneur m'aida et me soutint par sa puissance et sa bonté divine, de sorte que je ne me lassai point de son service, et que mon esprit ne défaillit point dans la souffrance. Le souvenir reconnaissant de sa bonté et le sentiment vivant de son amour pour mon âme en ces jours-là vivent encore et demeurent sur mon esprit. Loué soit notre Dieu à jamais et à toujours. Mon cher ami frère Richard Robson ayant été retenu prisonnier au château de Norwich un peu plus longtemps que je ne l'avais été dans la prison de la ville, en 1654-5, je ne l'eus pas avec moi aux réunions que je tenais tant dans le Norfolk que dans le Suffolk, avant qu'il ne fût remis en liberté. Ainsi, pendant quelque temps, je manquai d'un compagnon convenable pour voyager avec moi dans l'œuvre du ministère de l'Évangile en ces contrées, sauf, comme je l'ai dit, Richard Clayton, qui m'accompagna dans quelques parties du Norfolk, et Thomas Bond pendant un court espace à quelques réunions, où je travaillais à l'œuvre et au service du Seigneur. Le Seigneur m'assista grandement et me donna un encouragement vivant et une consolation lorsque j'étais beaucoup seul dans son ministère de l'Évangile. J'étais consolé, vivifié et animé en esprit par sa puissance et sa présence divine, en sentant et en percevant que son œuvre bénie prospérait, de sorte que la vérité de l'Évangile du Christ produisait son effet sur les cœurs et les esprits de beaucoup, vieux et jeunes, les attendrissant, ouvrant leur intelligence, les convainquant et les convertissant au Christ, la vraie lumière. Ainsi beaucoup furent tournés des ténèbres et de leurs œuvres vers la lumière, et de la puissance de Satan vers Dieu, pour connaître sa puissance divine qui les faisait ses chers enfants et son peuple, comme beaucoup le furent en ces premiers temps. Et que beaucoup étaient diligents, parcourant de nombreux kilomètres pour aller aux réunions des amis, anciens et jeunes hommes et femmes, jeunes filles et enfants. Et quel amour, quel brisement et quelle tendresse apparaissaient dans les réunions en ces jours de leur premier amour et de leurs fiançailles, où beaucoup, comme de chastes vierges, furent fiancées à Jésus-Christ dans sa lumière, sa vie et son esprit, et beaucoup de ses amis aimants et tendres, qui furent les premiers fruits parmi nous, y persévérèrent et y achevèrent leurs jours. Après la libération de Richard Robson de la prison du château de Norwich, nous eûmes ensemble quelques réunions réconfortantes à Sealham, chez Joseph Lawrence, près de Hoxen dans le Suffolk, à Gissing, chez William Barbey, et en quelques autres endroits du Norfolk. Nous fûmes réconfortés ensemble dans l'œuvre et la communion de l'Évangile de Jésus-Christ, et particulièrement à Pulham, chez William Grudfield dans le Norfolk. Grudfield était un homme ancien, honnête de cœur, qui reçut la vérité et les amis avec beaucoup d'amour et de tendresse. Nous eûmes aussi communion chez Matthew Elmy et chez Margaret Dilkison, dans les Nine Parish, non loin de Beccles, dans le Suffolk. Lui, sa femme et sa famille reçurent l'amour de la vérité et étaient des gens très honnêtes et aimants. De ce côté du pays, quelques amis furent rassemblés, véritablement convaincus et tournés vers le Seigneur et vers sa lumière et son esprit dans leur cœur. Parmi eux se trouvait William Bennet, que le Seigneur revêtit de sa puissance céleste, de sorte qu'il devint un ministre vivant de l'Évangile de vie et de salut. Il avait aussi une conduite innocente et sainte, et plus tard, pour son fidèle témoignage, il fut un grand souffrant dans la prison d'Edmondsbury. Beaucoup d'autres amis y souffrirent aussi, après que le roi Charles y fut monté sur le trône. Richard Robson et moi eûmes une importante réunion publique à Beccles dans le Suffolk, en plein air dans un verger, où vinrent plusieurs sortes de gens de diverses professions. Certains nous contredirent, d'autres questionnèrent notre témoignage concernant la lumière du Christ dans les hommes, ou le fait qu'il éclaire tout homme venant au monde. Notre doctrine de la lumière intérieure était surtout contestée et faisait trébucher en ces temps-là, même chez de nombreux professeurs et docteurs éminents et réputés, comme si c'eût été quelque nouvelle doctrine, alors qu'elle est aussi ancienne et aussi scripturaire que toute autre doctrine de la divinité enseignée par les saints, prophètes ou les ministres de Dieu ou du Christ. Parmi les opposants et les objecteurs à notre doctrine de la lumière lors de cette réunion se trouvait Richard Townsend, qui se comporta plus modérément et plus doucement que certains de la compagnie, paraissant avoir des questions plus sincères qu'être autrement prévenu par des préjugés. Bien qu'il trébuchât au sujet de la lumière, nous continuâmes à démontrer la vérité et comment la lumière se manifeste à l'homme, et le reprend pour le péché, et voudrait l'instruire à la repentance, et le tirer hors du péché et du mal, si elle est obéie et suivie. Nous montrâmes en outre que, lorsque l'Évangile est véritablement prêché avec vie aux hommes, cette lumière en ne lui répond et en rend témoignage. La lumière les convainc de la vérité de ce qu'il a entendu prêcher et déclarer dans la démonstration de l'Esprit, et par cette lumière en eux, ils sont véritablement rendus capables de recevoir ce qui leur a été prêché et attesté, ce qu'ils ne pourraient autrement faire d'eux-mêmes, par leur seule capacité naturelle. Sur la base de ce message de la lumière intérieure et de la doctrine de la lumière, soutenue par nous, Richard Townsend confessa qu'il existe un écho dans la conscience de l'homme, qui répond au ministère de l'Évangile, et il insista quelque peu sur cet écho, mais ne put absolument pas s'opposer au principe selon lequel la lumière dans les hommes est spirituelle. Nos instructions chrétiennes lui furent données, ainsi qu'aux autres personnes présentes, dans une discussion douce et paisible. Lorsqu'elle fut terminée, il prit ces choses en considération plus avant et plus profondément, de sorte que la vérité s'éleva en lui avec une telle force qu'il se joignit par la suite à la société de nos amis, non seulement pour professer la vérité qu'il avait mis en question, mais aussi pour en rendre témoignage dans la conversation et dans le témoignage public. Dans la première partie de l'été, en l'année 1655, j'eus une réunion très mémorable dans le Haut Suffolk, à Chorsfield, à quelques milles de Woodbridge, où George Fox J.R. vivait alors avec son père. C'était la première réunion des amis de ce côté-là du pays, et la plus grande que j'eusse eue jusque-là dans le Haut Suffolk. Je n'avais alors aucun compagnon dans le ministère, mais quelques amis du côté de Mendelsham vinrent aussi. Une très grande foule de gens de diverses sortes vint à cette réunion, et beaucoup de leur cœur, ayant été préparés par le Seigneur à chercher et à recevoir la vérité, vinrent à la réunion avec de bonnes intentions et de bons désirs. Nous tîmes la réunion dans un verger, et elle commença vers la 11h17. J'avais attendu le Seigneur quelque temps, afin que sa puissance se lève et me donne la force de me lever pour rendre témoignage. Le peuple était dans une grande attente d'entendre ce qui pourrait être déclaré. Le Seigneur, dans sa grâce, voulut bien, par sa puissance immédiate, me donner la force en son nom de porter un témoignage vivant et fidèle, selon les ouvertures et révélations de son esprit libre, et le don reçu de lui pour prêcher l'Évangile éternel dans l'amour et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes prédications inspirées étaient aussi conformes aux Écritures de vérité et aux témoignages des saints prophètes, de Jésus-Christ et de ses apôtres. Sa présence vivante et divine était avec moi. Je fus merveilleusement aidé et élargi dans mon témoignage pour lui et pour la vérité bénie de son Évangile, au point que je fus rendu capable de demeurer debout près de 5h ce jour-là, selon l'estimation de beaucoup, prêchant la vérité et exposant les choses qui concernent le royaume de Christ et de Dieu, et le salut éternel des hommes. Beaucoup furent touchés de vie dans leur cœur, et efficacement convaincus dans leur conscience de la vérité alors déclarée, avec puissance et démonstration de la claire évidence du Saint-Esprit. *5h, c'est très long. Personne ne pourrait écouter quelqu'un pendant 5h, à moins que l'Esprit de Dieu ne parle par l'orateur, et à moins que l'Esprit de Dieu n'ait enchaîné les cœurs des auditeurs pour qu'ils demeurent attentifs si longtemps. C'est assurément une preuve supplémentaire de l'authenticité des affirmations des premiers Quakers, selon lesquelles ils parlaient par l'Esprit de Christ, et comme George Fox l'a dit, l'Esprit de Dieu lirait et entraverait leurs auditeurs de sorte qu'ils devaient entendre l'Esprit parler. Whitehead a dit ci-dessus la même chose, simplement avec d'autres mots, la lumière les convainc de la vérité de ce qu'il a entendu prêcher et déclarer dans la démonstration de l'Esprit, et par cette lumière en eux, ils sont véritablement rendus capables de recevoir ce qui leur a été prêché et attesté, ce qu'ils ne pourraient autrement faire d'eux-mêmes. Après que j'eus déclaré pendant quelque temps, John Burch, un prédicateur parmi les baptistes, se manifesta pour faire quelques objections au sujet de leurs ordonnances du baptême, d'eau et aussi de la venue du Christ en personne. J'avais été appelé à un ministère spirituel afin de faire sortir les gens des ombres vers la substance, pour connaître Christ en esprit et non selon la chair, et ne pas se reposer seulement sur une connaissance littérale de Christ, mais afin qu'ils le connaissent vivant et intérieurement selon l'esprit. Je répondis donc à ces objections dans un esprit de douceur, pour sa meilleure information et instruction dans la voie de Dieu, plus parfaitement que le baptême de Jean, les ombres extérieures ou la simple connaissance littérale ne pourraient amener quiconque à. En peu de temps, John se tut et parut quelque peu satisfait, et après une réflexion plus approfondie et sérieuse, en vint à recevoir la vérité dans une vision et un sens intérieur de la puissance. Il renonça à son ancienne prédication et profession, et devint disposé à attendre le Seigneur parmi les amis dans le silence. Après quelques années, il fut suscité pour rendre témoignage à la lumière, à l'Esprit et à la puissance de Jésus-Christ, et pour être ministre afin d'amener les gens à la connaissance de Christ et de son baptême spirituel en eux. Dans son ministère, John Burch fut très utile, surtout dans ses derniers jours, il garda la foi, et dans la foi de Christ, l'amour et l'unité, il acheva ses jours en paix. Mais pour revenir à cette réunion mémorable, dans la dernière partie, plusieurs pasteurs et docteurs réputés parmi les indépendants arrivèrent. Francis Woodell, un nommé Rabugum avec quelques autres, avait à la fois des objections et des questions. Tant le peuple que John Burch et la compagnie étaient très attentifs et observateurs pour voir ce qu'ils feraient contre nous, étant à tort prévenus et pleins de préjugés contre nous, pensant que nous nions les saintes Écritures, Christ, les ordonnances, l'Église et le ministère, etc. Mais au cours d'un bref entretien avec eux, je perçus qu'ils étaient ignorants de nos principes et doctrines chrétiens. Ce qu'ils avaient contre nous semblait procéder principalement des faux rapports de nos adversaires, par lesquels nous avions été rendus si antichrétiens et antiscripturaires dans notre religion et notre profession qu'ils pensaient pouvoir facilement nous abattre. Ce fait de préjuger et de condamner des personnes avant de les entendre ou sans examen approprié causa à ses opposants et à beaucoup d'autres d'être inefficaces dans leur opposition contre nous. Lorsque de tels opposants sont venus à nous, face à face, pour nous mettre à l'épreuve, notre claire confession de la foi chrétienne et notre soutien des Écritures ont souvent intimidé ses opposants et refroidi leur ardeur. Cela arriva avec ses ministres indépendants accusateurs. Dans les nombreuses disputes avec des opposants adversaires auxquels j'ai participé, leurs accusations ont été rapidement réduites à néant parce qu'ils se sont présentés contre nous sur la base de faux rapports et de oui-dire d'adversaires envieux. Ils ne gagnent aucun crédit auprès de ceux auprès de qui ils ont de la crédibilité, en avançant des prétentions absurdes, surtout lorsqu'ils jugent ou condamnent autrui d'après de tels rapports et de telles déformations. Dans les controverses religieuses, j'ai souvent observé que mon opposant ne pouvait me donner de plus grand avantage contre lui que de faire usage de faux rapports, ou de s'appuyer sur l'autorité de personnes malveillantes ou de leurs livres, ou de céder à la passion, qui aveugle l'esprit des hommes et obscurcit leur raison et leur intelligence. Mais ces ministres, bien que prévenus, se comportèrent avec modération envers moi et nos amis, et partirent bientôt après avoir été clairement et nettement répondus, frustrés de leur incapacité à mettre au jour des erreurs contre nous ou notre doctrine. Ils quittèrent paisiblement notre réunion, la vérité gagna beaucoup de terrain ce jour-là, et beaucoup furent véritablement convaincus et leur cœur tourné vers Dieu, sa grâce et sa vérité. Ce fut la première réunion fondatrice que les Quakers eurent de ce côté du Haut Suffolk. La réunion s'est poursuivie depuis lors dans ces régions, longtemps après cela chez Robert Mann à Dalingu, chez John Bennet à Bradfield, chez William Fedman, et parfois chez Anse Goddard. Tous ces lieux de réunion étaient de ce côté du pays, à quelques milles de Woodbridge. Ceux qui tenaient des réunions dans leur maison étaient des amis honnêtes et aimants, qui reçurent ainsi de bonne heure la vérité bénie et les amis, et demeurèrent tels jusqu'à la fin de leur jour. Quelques années plus tard, la réunion fut établie à Woodbridge, où elle s'est maintenue pendant de nombreuses années. Peu de temps après, la même année, Richard Robeson me rencontra dans le Haut Suffolk, et nous eûmes une bonne réunion, nombreuse et paisible, au même endroit. Quelques ministres et autres professants vinrent, mais nous ne rencontrâmes pas de grande opposition de leur part. Certains étaient plus curieux que d'autres, mais ils étaient déconcertés par notre prédication sur la lumière intérieure, la semence immortelle dans l'homme, et notre doctrine, bien que scripturaire. Pourtant, en ces jours-là, ces ministres indépendants étaient tenus en haute estime, et plusieurs d'entre eux étaient des prêtres de paroisse. Les choses furent alors paisiblement conduites jusqu'à la fin de la réunion, et la vérité continua de gagner du terrain. Beaucoup de gens se lassèrent des prêtres, et de plus en plus les quittèrent, ainsi que leur culte formel, et vinrent à notre réunion, tant dans ce comté que dans le Norfolk, et beaucoup de réunions de nos amis furent établies dans ces lieux. Après un travail et un service considérables, rendant témoignage à la vérité et à l'évangile de Jésus-Christ, dans le Norfolk et le Suffolk, au cours des années 1654 et 1655, outre l'emprisonnement à Norwich déjà relaté, mon cher ami Richard Clayton et moi, nous retrouvant dans le Haut Suffolk au cinquième mois 1655, voyageâmes ensemble dans l'Essex jusqu'à Colchester. C'est là que James Parnell, astérisque ce serviteur du Christ des premiers temps, était prisonnier dans le château. Il y avait été écroué peu de temps auparavant. Nous lui rendîmes visite en prison et il fut réconforté par notre visite. Nous fûmes heureux de le voir si bien supporter cette détention à ce moment-là. Mais il mourut plus tard des suites d'un emprisonnement cruel, pour son fidèle témoignage. Astérisque James Parnell, fait ministre à 16 ans par les enseignements personnels du Christ, fut le premier Quaker à mourir en prison à 19 ans, et sa fidélité jusqu'à la mort est une merveilleuse histoire en soi, rapportée dans ses mémoires sur ce site. Après lui, 868 Quakers moururent plus tard des suites d'emprisonnements rigoureux. Nous poursuivîmes notre route vers Londres, désirant voir nos frères et amis dans cette ville, si le Seigneur voulait bien le permettre. Ce jour-là, nous allâmes à pied du White Elm, près d'Ipswich jusqu'aux environs de Chelmsford, soit près de 40 milles astérisque, et sur la route nous rencontrâmes notre cher ami et frère George Fox, et Amos Stoddard, venant de Londres vers l'Essex. Nous fûmes très heureux de les voir. Nos désirs d'aller plus avant furent en partie exaucés pour ce temps-là, et nous fûmes disposés à rester avec eux à quelques réunions dans l'Essex, ce que nous fîmes, comme à Great Coggeshall et à Lexden, près de Colchester, où George Fox rendit un ample témoignage à la vérité de Christ et contre les corruptions du monde. le premier jour de la semaine suivante, étant le 20e jour du 5e mois 1655, nous eûmes une très bonne réunion à South Halstead, chez John Isaac, dans sa grange, Richard Clayton étant avec moi, et John Howard, un homme du Yorkshire, nous ayant rencontrés dans l'Essex, décida de voyager un peu avec nous. À cette réunion à Halstead, le Seigneur élargit grandement mon cœur dans son témoignage de l'Évangile envers ce peuple, car le cœur de beaucoup d'entre eux était bien disposé et incliné vers Dieu et sa vérité bénie. Par sa puissance invisible, il avait ouvert parmi eux une porte d'entrée, ainsi qu'une porte de parole vers eux. Avant son emprisonnement à Colchester, James Parnell avait été un instrument pour convaincre beaucoup de gens dans ces régions cet été-là. Par le témoignage et le ministère vivant de Parnell, divers croyants furent ébranlés et déconcertés dans leurs professions et notions, qu'ils n'avaient que dans leur esprit charnel, sans l'expérience d'une véritable œuvre dans leur cœur par la puissance de Christ. Car la profession et le discours sur la religion et l'Église abondaient grandement en ces jours-là parmi beaucoup, de même que l'orgueil de soi et la vanité de soi, que le Seigneur s'apprêtait à baisser, comme il le fit manifestement peu après, car ses apparences estivales de religion ne supporteraient pas un hiver orageux. Astérisque voyager à pied 40 milles en un jour dépasse les capacités de la plupart des hommes. Je dois confesser à la gloire de Dieu dans mon propre abaissement, et parce qu'il gouvernait ma volonté et mon affection par sa propre puissance, sagesse et providence, que j'ai été à ce moment-là empêché d'aller à Londres visiter mes frères et amis là-bas, selon mon propre désir et mon affection. Avant que je puisse aller à Londres, le Seigneur avait pour moi davantage d'œuvres et de services, ainsi que de souffrances à traverser dans la campagne, et particulièrement dans le comté de Suffolk. Ayant été béni d'un service efficace par l'assistance spéciale de la puissance du Seigneur dans le Norfolk et dans le Haut Suffolk, je devais maintenant être un souffrant dans le Bas Suffolk et porter mon témoignage pour lui dans un dur enfermement et un traitement inhumain en prison. En ces jours-là, le Seigneur imposa diverses exigences à plusieurs d'entre nous, qu'il appela et envoya sitôt prêcher l'évangile de la repentance pour la vie et le salut. Pendant un temps, nous fûmes poussés à parcourir le pays en prêchant, afin que la connaissance augmente chez les gens quant aux voies et aux agissements du Seigneur. À d'autres moments, il plut au Seigneur que nous soyons pris et emprisonnés, étroitement confinés et sévèrement traités, étant bien des fois traités de manière inhumaine et barbare. Les récits qui suivent pourront en partie le montrer, ainsi que la sorte d'esprit qui régnait et animait certains hommes sous de hautes professions et prétentions de religion et de christianisme, et combien ils étaient peu chrétiens dans la pratique. Le cas de ceux qu'on appelait Quakers, qui souffrirent dans la prison d'Edmondsbury dans le Suffolk, dont l'un était moi-même. Le 30e jour du 5e mois, 1655, étant le 2e jour de la semaine, George Whitehead et John Howard, avec Richard Clayton, traversant une ville appelée Bure, dans le Suffolk, Richard Clayton fut poussé à placer un écrit sur la porte de l'église de cette ville. Il n'y avait rien dans ce papier sinon ce qui est appuyé par les Saintes Écritures. Nous deux, étant entrés un peu avant pendant qu'il plaçait le papier, et regardant en arrière et voyant des gens autour de lui, fûmes poussés à dire quelques mots au peuple, les exhortant au nom et dans la crainte du Seigneur, à craindre Dieu et à se détourner du mal de leur voix. Pendant que nous parlions, un connétable, Richard Hume, entra et arrêta George Whitehead et John Howard, les conduisant devant Herbert Pelham, appelé juge de paix, qui se trouvait alors à Bure, bien que sa charge de justice ne fût pas du comté de Suffolk mais de l'Essex. Néanmoins, il nous interrogea, l'un après l'autre, et pendant ce temps, Richard Clayton fut tenu à l'écart de nous, et ne fut pas interrogé là. Lorsqu'il nous eut examinés, il ne put imputer à notre charge la moindre infraction à une loi, ni montrer quoi que ce soit de contraire aux Écritures dans le papier que Richard Clayton avait mis sur la porte de l'église. Mais peu après, il nous envoya, avec le connétable et quelques autres, auprès de Thomas Walgrave, un juge de paix à Smallbridge, près de Bure, qui, lorsque nous comparûmes devant lui, nous interrogea aussi sur quelques points. Après cela, il ne trouva rien à notre charge qui mérite souffrance, ni ne montra aucune loi que nous eussions transgressée, bien que nous la demandassions. Il nous menaça, et nous laissa à peine parler pour nous-mêmes, mais fit qu'on nous chassa de sa maison jusqu'à ce que lui et Pelham eussent consulté ensemble contre nous à ce qu'il parut. Ce même jour, Richard Clayton fut fouetté à Bure, quoique pas sévèrement sur l'ordre de Walgrave, sous le prétexte d'un crime à cause du papier qu'il avait placé sur la porte de l'église, et il fut tenu hors de la ville le même jour par une troupe. Le lendemain, Walgrave envoya John Howard à la prison d'Edmondsbury, et le jour suivant il envoya aussi George Whitehead à la même prison. Le 2e jour du 7e mois, 1655, George Rose fut aussi arrêté et envoyé à la même prison le 4e jour du même mois par John Gurden, juge de paix pour le comté de Suffolk. La cause de l'incarcération de George Rose fut d'avoir posé une question à un ministre de Stonck après qu'il eut terminé son sermon et son exercice. Nous trois, qui fûmes écroués, fûmes gardés prisonniers jusqu'aux prochaines sessions générales trimestrielles tribunal, tenues à Edmondsbury, le 9 au jour du 8e mois suivant. Et alors nous fûmes appelés devant William Blomfield, l'un de leurs juges de paix du comté, qui siégeait comme juge de ces sessions. Cependant, nous ne devions recevoir pas plus de justice qu'auparavant, car John Gurden et Thomas Waldegrave étaient tous deux sur le banc, et, comme nos adversaires et accusateurs, ils informèrent le juge contre nous, et il nous laissa à peine parler. Thomas Waldegrave menaça le geôlier de le mettre à l'amende de 40 shillings s'il ne nous réduisait pas au silence lorsque nous désirions répondre à un acte d'accusation qui fut présenté contre George Whitehead et John Howard, acte d'accusation sans fondement et faux. Car nous y étions qualifiés de manœuvre de bure et accusés d'avoir, à plusieurs reprises, troublé les magistrats et les ministres et d'avoir été plusieurs jours à bure avant d'être fait prisonnier. Alors qu'en réalité John Howard n'avait jamais été dans cette ville ni dans ce comté avant le jour où nous fûmes faits prisonniers. Nous ne troublâmes ni magistrat ni ministre, comme il nous était faussement reproché. Nous ne parlâmes à aucun magistrat ni ministre dans cette ville avant qu'ils nous fissent prisonniers. Thomas Waldegrave n'amena non plus aucun témoin pour prouver l'acte d'accusation, ni quoi que ce soit qui s'y trouve, la seule preuve étant le papier pour lequel il fit fouetter Richard Clayton, que nous lûmes publiquement et reconnûmes avoir écrit et affiché lors des sessions publiques. Ainsi, sans aucune preuve de l'acte d'accusation, le jury, qu'ils avaient prévenu et amené à se prononcer sur nous, rendit son prétendu verdict contre nous, à savoir que nous étions coupables selon la manière et la forme de l'acte d'accusation, ce qui était faux dans les deux cas et sans substance ni preuve. Un acte d'accusation mensonger fut pareillement présenté contre George Rose, également sans aucune apparence de preuve, dans lequel ils l'accusèrent d'être un perturbateur ordinaire de la paix et d'avoir été plusieurs fois auparavant et après à Stonck, alors qu'il n'y était jamais allé avant le jour où il fut fait prisonnier, et ils procédèrent contre lui aussi injustement qu'ils l'avaient fait contre nous, contre lesquels le jury avait rendu son jugement. Le juge se conforma à l'inimitié et à l'injustice du reste de nos adversaires présents, et imposa une amende de 20 nobles, une monnaie de 6 shillings et 8 pence, soit un 3 de livres, à chacun de nous, à savoir George Whitehead, George Rowe et John Howard, pour laquelle nous fûmes retenus en prison au milieu de grandes difficultés, pendant plus de 12 mois après les sessions. Le même jour mentionné ci-dessus, lorsque John Gurden eut obtenu son dessein envieux contre nous trois, comme il sortait par la porte de la salle des sessions, George Fox J.R. fut remué en esprit pour lui dire quelques mots en ces termes « Repentez-vous de vos actions injustes d'aujourd'hui, autrement vous ne pourrez échapper au juste jugement de Dieu. » Pour cela, John Gurden le saisit et le fit traîner devant le banc, et l'accusant, dit qu'il irait en prison à moins qu'il ne fournisse des cautions bien ou argent en garantie pour comparaître aux prochaines sessions, mais ne montra aucune loi qu'il eût transgressée. Néanmoins, il le fit promptement envoyer en prison, où il demeura avec le reste de nous et partagea les mêmes difficultés dans la prison commune, pendant plus de 12 mois après, jusqu'à ce que nous fussions libérés ensemble. Le 22 jour du 9e mois, 1655, Henry Marshall, un ami du Cambridgeshire, fut envoyé en prison par John Gurden pour avoir dit quelques mots à quelqu'un qu'on appelait ministre à Boxford après qu'il eut terminé son sermon ou dévotion, mais avant d'être envoyé en prison, John Gurden le fit mettre au pilori et l'y fit tenir environ une heure. Aux sessions générales trimestrielles suivantes, tenues à Edmondsbury, le 14 jour du 11e mois, George Fox et Henry Marshall furent appelés à être jugés. Le juge Coltrop siégea comme juge pour le comté de Suffolk. Il suivit la même voie de persécution contre eux, qui avait été prise contre nous trois mentionnés ci-dessus. Un acte d'accusation mensonger, selon la forme de l'autre, fut aussi présenté contre Henry Marshall sans aucune preuve. Il fut condamné à une amende de 20 marks, pour laquelle il fut maintenu sous caution avec le reste de nous. Ainsi, pour une prétendue offense, il y eut des peines imposées à une seule personne, à savoir le pilori, la prison et l'amende. Mais aucun acte d'accusation ne fut produit contre George Fox J.R. John Gurden, qui avait causé son emprisonnement, n'y compara non plus, et aucun témoin ne comparut contre lui, de sorte que, selon la loi nationale, il aurait dû être acquitté et remis en liberté. Néanmoins, il fut renvoyé en prison, et dans le rôle du tribunal, il fut noté qu'il devait rester en prison jusqu'aux prochaines sessions trimestrielles, à moins qu'il ne fournisse des cautions pour sa comparution alors et là. Et bien qu'il fût détenu jusqu'à ce moment-là, il ne fut alors ni rappelé devant le tribunal, ni libéré. Quoiqu'il demandât la raison de sa détention, le geôlier ne voulut montrer ni ordre ni mandat justifiant sa détention en prison. Nos persécuteurs agissaient très arbitrairement contre nous, sans loi, dans leurs procédures, bien qu'ils fissent profession à la fois de religion chrétienne et de justice. Ils prétendaient agir, dans ce qu'ils faisaient contre nous, au nom et pour le compte de son Altesse le Lord Protecteur, comme ils l'appelaient alors. Ainsi, leur emprisonnement, leur étroit confinement et leurs amendes furent faits en son nom et sous prétexte de son pouvoir. Mais la puissance du Seigneur notre Dieu nous soutint et nous appuya, afin que nous supportions patiemment et innocemment toutes ces persécutions et ces rigueurs qui nous furent infligées, sachant que c'était pour lui et pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ que nous souffrions en ces jours-là, et que la cause était la sienne, à laquelle nous étions engagés. Lui seul plaiderait et défendrait sa cause, comme il l'a fait, béni soit jamais son nom digne et sa puissance. Le cas ci-dessus quant au fait fut entièrement rédigé et daté dans la prison commune d'Edmondsbury, le 31 jour du troisième mois, 1656, et signé par nous qui étions alors prisonniers, dans lequel nous déclarâmes être prêts à sceller la vérité de notre sang, si cela était requis. John Wattridge, un ami honnête des nôtres à Edmondsbury, fut envoyé en prison depuis leur session trimestrielle tenue pour cette ville, le 12 jour du deuxième mois, 1656, pour avoir refusé de prêter serment à la charge de connétable, bien qu'il n'ait pas refusé la charge, mais le serment par conscience à cause du commandement du Christ, ne jurait point du tout, pourquoi il fut condamné à une amende de 40 shillings puis écroué. Thomas Smith, John Clark et quelques autres furent ses juges, le premier dit qu'il le punissait pour avoir juré, puis pour ne pas avoir juré. Lorsque John Wattridge fut envoyé en prison, on le mit dans une chambre sale, pleine de puces, et on le fit coucher à même le sol sans lit. Selon son propre récit, il fut détenu prisonnier environ 14 jours. Son manteau lui fut retiré sur l'ordre du geôlier parce qu'il refusait de payer les frais de prison de 4 shillings et 4 pence exigés par le geôlier. Mais aucune loi ne justifiait ses frais, ni une loi ne justifiait qu'on le dépouille de son manteau. Le papier pour lequel Richard Clayton fut fouetté à Bure se lit ainsi « Si vous établissez de tels ministres qui recherchent leur gain de leur quartier, qui sont avides et cupides, vous établissez ceux contre lesquels le prophète Isaïe s'est écrié, Isaïe 56:11. Si vous établissez de tels prêtres qui prêchent pour salaire et devinent pour de l'argent, vous établissez ceux contre lesquels le prophète Michée s'est écrié, Michée 3:11. Il y avait d'autres écritures pour montrer les mauvais fruits, la cupidité et les corruptions des faux enseignants et des chefs, etc. Thomas Waldegrave produisit ce papier contre nous lors des sessions, mais il ne put produire ni montrer aucune loi enfreinte par celui-ci, pas plus qu'il ne le fit contre moi parce que je m'étais adressé à lui en lui donnant le titre de T. Waldegrave dans ma lettre, conformément à sa propre souscription au bas de son mandat d'écrou, comme il sera montré plus bas que c'était un pauvre prétexte pour me retenir 15 mois en prison, la substance d'une lettre que j'envoyais à Thomas Waldegrave après qu'il m'eût fait écrouer à la prison de Bailey. T. Waldegrave, à vous qu'on appelle juge de paix, je suis poussé par le Seigneur à écrire contre vos agissements injustes. Avant de m'envoyer en prison, vous m'avez dit que je pourrais rester sous la garde du connétable à Bure cette semaine-là, jusqu'à ce qu'un autre juge soit revenu chez lui, afin que je sois jugé devant lui. Au lieu de cela, en l'espace de 2 jours, vous m'avez envoyé en prison, où moi et mes compagnons de captivité sommes mis parmi les voleurs sans les mêmes privilèges qu'ils ont. Nos amis ne sont pas autorisés à entrer pour nous parler, et ils sont violemment chassés de la porte intérieure de la prison. Nous sommes enfermés ici comme si nous n'étions pas dignes de respirer l'air commun. Le geôlier tempête, dans la rage et la tyrannie, contre nous, pire que contre les voleurs et les meurtriers. Pour excuser sa conduite, il allègue que vous ne nous auriez sûrement pas envoyés ici, à moins que vous n'ayez pu nous prouver transgresseurs, alors même que vous ne pouviez nous imputer la violation d'aucune loi au moment même. Sachez que, bien que vous soyez à l'aise dans votre injustice, et que vous ne preniez pas à cœur les souffrances des innocents qui souffrent par vous, souvenez-vous pourtant que les jugements de Dieu contre votre cruauté ne sommeillent point. Souvenez-vous de la fin des persécuteurs des vrais prophètes, de Christ et de ses apôtres, dont des souffrances et du témoignage contre toute injustice, nous sommes, dans une mesure, participants. Lorsque nous vous avons demandé de nous montrer la loi que nous avions transgressée, vous nous avez fait traîner dehors, et vous avez consulté le juge Pelham contre nous, bien que sa charge soit pour un autre comté. Quand des magistrats pieux ont-ils jamais puni des transgresseurs sans leur montrer leur offense? Mais vous ne nous avez pas convaincus de la validité de votre mandat. Je suis indûment accusé d'être un perturbateur ordinaire de la paix publique, mais un tel trouble n'a pas été prouvé. Par conséquent, vous devriez avoir honte de votre injustice envers l'innocent et de faire de ces mensonges votre refuge contre nous, car sachez que le Dieu juste juge avec justice et qu'il vengera de tels agissements injustes. nous sommes libres, que le monde entier connaisse la cause de nos souffrances, dans lesquelles nous sommes innocents et en paix, et que la vérité, que nous professons et reconnaissons, ne cessera pas par nos souffrances pour le nom de Christ, car il existe une nuée de témoins de la vérité pour laquelle nous souffrons. Mais puisque vous vous trouvez dans les pas de ceux qui ont persécuté et emprisonné les saints, et parmi ceux qui conspirent et prennent conseil ensemble contre le Seigneur et son oint, à cela le Seigneur parlera dans sa colère et les tourmentera par son extrême déplaisir. Repentez-vous donc de votre cruauté, de peur que le Seigneur ne vous retranche et ne vous donne votre part parmi les persécuteurs et les incirconcis. Souvenez-vous que vous avez maintenant été avertis, tandis que, pour l'heure, le Seigneur n'exécute pas promptement ses jugements sur vous. J'en appelle à la lumière dans votre conscience, qui rend témoignage contre toutes ces pratiques qui lui sont contraires, et contre la condamnation de ceux qui y vivent. Je vous demande une réponse rapide à ces choses, et sur la cause de notre détention dans ces liens injustes et cruels, que vous avez fait imposer sur nous. D'un souffrant innocent pour la vérité, George Whitehead, prison d'Edmondsbury, le 15 du 6e mois, 1655, Thomas Walgrave produisit la lettre ci-dessus au tribunal lors des sessions trimestrielles, et la seule accusation qu'il formula contre moi fut de lui avoir donné le titre de T. Walgrave. Je lui dis que je suivais sa propre souscription sur son mandat d'écrou, par lequel il m'avait fait emprisonner, où il s'était ainsi souscrit T. Walgrave, mais il conclut que ce n'était pas à moi de faire comme il avait fait, par quoi il ne prouva aucun crime contre moi, copie du mandat d'écrou, au connétable de Bure et au gardien de la prison de Bury. Je vous envoie 6 juin la personne de George Whitehead, d'Orton, dans le comté de Westmoreland, étant un vagabond oisif et un perturbateur ordinaire de la paix de cette nation, vous enjoignant, au nom de son Altesse le Lord Protecteur et Al, de le recevoir dans votre prison et de l'y garder en sûreté afin qu'il puisse comparaître devant les juges aux prochaines sessions de la paix, qui se tiendront pour ce comté à Bury, alors et là pour être procédé contre lui selon la loi. Et je vous requiers de ne pas y manquer, ce premier jour d'août 1655, remarquez, un vagabond oisif, ceci est faux en fait, et de plus grossier et méprisant, car 1. Il est bien connu que je ne suis pas une telle personne, car après que mes parents m'eurent retiré de cette école réputée à Blanco, dans le Cumberland, à la demande de quelques amis, j'enseignais d'abord dans une école privée, puis dans une école publique. 2. Après cela, je fus à la maison de mon père une partie d'un été. Je n'étais alors pas oisif, mais diligent dans ce qui m'était approprié. Je n'avais pas été élevé pour être dans l'oisiveté, ni pour vouloir manger le pain de l'oisiveté, afin d'éviter tout blâme et reproche à mon égard sur ce point. 3. Et lorsqu'il plut à Dieu de m'appeler, par sa parole, hors de la maison de mon père et hors de mon pays natal, pour prêcher l'Évangile éternel, j'y travaillai fidèlement et voyageai au service de celui-ci, selon la grâce et la capacité que Dieu m'avait donnée, en son cher Fils Jésus-Christ. 4. On m'accuse aussi d'être un perturbateur ordinaire de la paix publique de cette nation. J'ai été, et je suis encore, un homme d'une conduite paisible, puisque je suis aussi un ministre de l'Évangile de paix. 5. Dans l'acte d'accusation des sessions trimestrielles, on me qualifiait de manœuvre ordinaire, comment alors pouvais-je aussi être qualifié de vagabond oisif dans le mandat d'écrou? Ainsi notre poursuivant se contredisait lui-même dans ses accusations, car là où existe l'envie, il y a confusion. Pouvait-il raisonnablement s'estimer plus déshonoré parce que je lui donnais son propre titre de T. Walgrave que par ses procédures injurieuses et illégales contre nous, et afin qu'il paraisse davantage quel genre de mandat ces juges faisaient contre nous, voici aussi une copie du mandat d'écrou de John Gurden contre George Rose, Suffolk au gardien de la prison commune à Bury St. Edmund et à son adjoint et adjoint du dit lieu. Attendu qu'à l'examen de George Rose, dernièrement de Halstead, dans le comté d'Essex vitrier, et sur un examen reçu sous serment devant nous, contre le dit Rose, il nous apparaît cause suffisante pour contraindre Rose à fournir 2 cautions capables et suffisantes pour sa comparution personnelle aux prochaines sessions de la paix, à tenir pour la franchise de Bury St. Edmund, et alors ne pas s'en aller sans la permission du tribunal. Et attendu que le dit George Rose a refusé de fournir des cautions, nous vous envoyons par la présente la personne du dit George Rose, vous requérant, au nom de son Altesse le Lord Protecteur du Commonwealth d'Angleterre, de le recevoir dans la dite prison, et de les garder en sûreté jusqu'aux prochaines sessions, à moins qu'entre-temps il, le dit George, étant de son propre aveu quelqu'un qu'on appelle ordinairement un quick, ne fournisse entre-temps de telles cautions capables et suffisantes pour sa comparution comme il est dit ci-dessus. Daté à Huffington, le 3e jour de septembre 1655, remarquez, 1. Quel précédent légal pouvaient-ils avoir pour un tel mandat d'écrou, alors qu'ils n'assignent ni cause pour exiger de telles cautions, ni aucun fait, comme une violation de la loi méritant l'emprisonnement de bien que son fait de se confesser comme quelqu'un qu'on appelle un Quaker semble être la raison de son incarcération, nous ne pouvons penser que ce fût une raison légale ou valable, ni une cause d'une telle sévérité que ces personnes étaient déterminées à nous imposer. Combien est-il donc évident que leur volonté partiale était leur seule loi prise en considération ? La substance d'une lettre à William Blomfield, qui siégeait comme juge aux sessions trimestrielles susmentionnées. À vous qu'on appelle juge, je suis poussé par le Seigneur Dieu à écrire. Lisez donc avec modération et considérez afin d'être informé pour qui vous avez agi. Amis, au siège du jugement lors des sessions, vous étiez placés pour juger les causes selon la justice, mais la cause des opprimés, qui souffrent pour la justice, vous ne l'avez pas considérée, en vous joignant aux persécuteurs contre nous que vous avez ainsi laissé faire. Ils présentèrent contre nous un acte d'accusation mensonger sans preuve de fait, et firent qu'une troupe de pauvres hommes ignorants, qui ne nous connaissaient pas, s'éladaient. Le jury rendit un verdict ainsi nommé sous serment, à savoir que nous étions coupables selon la manière et la forme de l'acte d'accusation, ce qui, dans aucun des chefs d'accusation, n'était vrai, et en cela ils se parjurèrent. Et ensuite, en nous mettant à l'amende, vous vous êtes joints à nos persécuteurs qui nous emprisonnèrent, à savoir ceux appelés le juge Waldegrave et le juge Gurden, dont beaucoup ont remarqué l'injustice en ce qu'ils agissaient à la fois comme nos accusateurs et nos juges. En consentant à agir selon leurs volontés, qui sont cruelles et envieuses, vous avez agi contre le juste témoignage de Dieu en vous, et en prêtant l'oreille à eux et à leurs conseils, vous n'avez pas pris conseil de Dieu, et malheur à ceux qui prennent conseil, mais non de moi, dit le Seigneur, qui se couvre d'une couverture, mais non de mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Le prompt témoignage de Dieu vous poursuivra et vous jugera pour avoir participé avec les méchants. Votre conscience est souillée, et votre profession est tenue dans l'injustice et est tachée. Toute votre profession de Dieu et de Christ ne vous couvrira ni ne vous cachera du juste jugement qui viendra sur tous ceux qui s'associent à l'iniquité, et quand bien même main se joindrait à main, le méchant ne restera pas impuni. Considérez donc ce que vous avez fait et pour qui vous avez agi. Reconnaissez dans votre conscience la lumière du Christ, et elle vous fera voir que, dans ces choses, vous ne pouvez avoir la paix avec Dieu, et combien vous avez agi contre nous avec empressement et imprudence, comme vous ne l'auriez pas fait contre vous-même. Considérez, aimeriez-vous être arrêté en passant sur la grande route, occupé à vos affaires légitimes, interrogé et emprisonné, contrairement à la loi de Dieu et aux lois des nations, et en prison souffrir 10 semaines, puis être condamné à une amende et renvoyé en prison encore, comme nous l'avons été, contrairement aux lois de justice et d'équité. Soyez honnête avec vous-même, et voyez si vous nous avez fait ce que vous voudriez que d'autres vous fassent. Quand un magistrat pieux a-t-il jamais fait de telles choses ? Que le témoignage de Dieu dans votre conscience juge si ces choses viennent de Dieu ou non, si la persécution et la cruauté conviennent à ceux qui professent le christianisme et la piété, oui ou non. Considérez vos voies, sortez du milieu des persécuteurs, et repentez-vous de ces actions injustes, afin que vos mains soient lavées de la culpabilité du sang de ceux qui souffrent pour la justice, de peur que vous n'ayez votre part parmi ceux qui commettent des offenses contre le troupeau du Christ, qui a souffert la persécution par la semence des malfaiteurs, car celui qui fait tomber l'un des plus petits de ceux qui croient en lui, il vaudrait mieux pour lui n'être jamais né, ou qu'on lui attachât au cou une meule de moulin et qu'on le jetât à la mer. C'est pourquoi, maintenant, de la part du Seigneur, vous êtes avertis, devant qui vous ne pouvez vous excuser en ces choses mentionnées ci-dessus, et cela vous est déclaré dans l'amour pour votre âme. Que vous les preniez à cœur ou non, je suis dégagé, car j'ai paix et consolation par Christ Jésus dans mes souffrances pour la justice, n'étant convaincu d'avoir enfreint aucune loi connue. Gloire au Seigneur Dieu à jamais, George Whitehead. Prison commune d'Edmondsbury, le 20 jour du 8e mois, 1655, puisque nos persécuteurs ont condamné 5 d'entre nous à la prison au moyen de ces mandats susmentionnés, et puisqu'ils ont rendu sentence et infligé des amendes à la plupart d'entre nous lors de leur session trimestrielle, il convient de donner quelques comptes de notre traitement et de nos souffrances en prison. Souffrances en prison, après que 2 d'entre nous eurent d'abord été envoyés en prison, nous eûmes un logement dans une chambre à l'étage pendant les 2 ou 3 premières semaines. Nous apprîmes que le geôlier avait l'intention de nous faire payer un loyer, et pensant que notre détention pourrait durer longtemps, nous demandâmes une chambre de prison gratuite, sur quoi l'on nous relégua dans le quartier commun parmi les criminels. Après y être resté quelques semaines, l'ami Samuel Duncan, par compassion pour nous, donna en secret au geôlier un peu d'argent pour payer notre logement loin des criminels. Quand cet argent fut épuisé, le geôlier insista pour reprendre son ancienne exigence d'un penny par nuit pour chacun de nous, paiement que nous ne pouvions ni consentir à verser, ni permettre qu'aucun de nos amis fût mis à contribution. Répondant que nous voulions une chambre de prison gratuite, nous fûmes de nouveau jetés dans le quartier commun. Tandis que nous avions été logés à l'étage grâce à l'argent que l'ami avait donné au geôlier, les voleurs notoires, qui faisaient partie de la bande ayant cambriolé la maison de ce George Wininiff et qui avaient déjà été condamnés aux assises, s'évadèrent de prison et prirent la fuite, laissant derrière eux leurs fers et leurs entraves. Nous fûmes heureux de ne pas nous trouver dans le quartier commun au moment de leur évasion, car c'étaient des hommes désespérés lorsqu'ils s'enfuyaient pour sauver leur vie. Nous y vîmes un acte de la Providence. Notre ami avait obtenu, pour ce court temps, que nous soyons logés à l'écart des criminels. Alors nous fûmes installés dans le quartier commun parmi les criminels, dans un endroit bas, semblable à un cachot, sous une halle de marché. Notre litière était de la paille de seigle sur un sol de terre humide, mais nous nous en contentions, et ce lieu nous fut sanctifié. Le geôlier tenait une taverne pour servir de la bière aux tonneaux, et beaucoup de ses prisonniers étaient souvent ivres. Parce que nous ne voulions pas contribuer à l'extorsion du geôlier, ni n'étions libres d'acheter sa bière, sa rage s'élevait souvent fortement contre nous. Nous étions cinq, tous envoyés successivement en prison, et nous fûmes tous dans le quartier commun, pendant notre détention, ne buvant que de l'eau. Il paraissait surtout enragé contre nous parce que nous témoignions souvent et nous élevions à grands cris contre les péchés sales et horribles de l'ivrognerie, des jurons et autres désordres, et abus parmi les prisonniers. Les serviteurs du geôlier encourageaient ces comportements en leur permettant de boire excessivement de la bière forte pour son gain financier impie tiré de la vente de la boisson. Mais le Seigneur nous anima d'un zèle qui nous fit crier plus fort encore contre la méchanceté du geôlier, de ses serviteurs et des prisonniers, pour ses maux grossiers et ses désordres, parce que le geôlier faisait profession de religion et de piété. Il était membre d'une église presbytérienne à Berry, et il faisait venir les prisonniers le premier jour de la semaine vers le soir pour les instruire et les conduire dans sa manière de dévotion. Parce que je lui parlais de son hypocrisie en cela, ses fruits étant si contraires, sa fille s'offensa, disant « Quoi traiter mon père d'hypocrite, lui qui est saint depuis 40 ans ?» Pour montrer quelques-uns de ses fruits, et comment lui et ses gens nous traitaient, considérez les incidents suivants. Le 21 jour du 10e mois 1655, le geôlier frappa George Rowe au visage jusqu'à faire couler le sang, et le 28, il frappa George Fox J.R. et John Howard au visage devant plusieurs témoins. Le 21 du 11e mois, il frappa George Whitehead au visage jusqu'à ce que le sang lui sorte par la bouche, uniquement pour avoir démasqué et désapprouvé certains mensonges qu'il avait proférés contre nous, ce que certains présents entendirent. Alors une femme de sa propre société ou profession, voyant sa fureur et sa violence, lui dit qu'il déshonorait l'Évangile. Il semble qu'elle était plus sensible et plus consciencieuse que lui. Il nous maltraita honteusement bien d'autres fois, tant en parole qu'en acte, ce qui encouragea ses serviteurs, le tenancier, le serveur de bière et le guichetier gardien, ainsi que certains de ses prisonniers ivres, à suivre son exemple. Son tenancier nous maltraitait souvent grossièrement et non seulement nous menaçait, mais lança violemment une pierre qui frappa l'un d'entre nous. Et dans sa rage, il prit un tabouret pour frapper l'un de nous ou le jeter sur certains d'entre nous, en étant empêché parce que l'un de nous le retenait. Il calomniait souvent et frappait certains d'entre nous au visage, et il nous agressait aussi violemment à coups de poing, sans autre motif que l'expression de notre désapprobation de sa méchanceté et de celle des autres. Certains prisonniers aussi nous avaient souvent maltraités en nous enlevant notre nourriture, alléguant que le geôlier leur en avait donné la permission. Par cette même permission, ils nous firent du tort, à plusieurs reprises en nous battant, en nous lapidant, en usant envers certains d'entre nous d'un traitement outrageant. Ils menacèrent aussi de nous tuer et d'assommer certains d'entre nous. L'un d'eux dit un jour que, s'ils nous tuaient, ils ne seraient pas pendus pour cela et qu'il n'y avait pas de loi pour nous, même s'ils nous tuaient. Ivre de la bière forte du geôlier, il donna des coups de pied et blessa certains d'entre nous aux jambes et nous maltraita cruellement, sachant que, selon notre principe et notre pratique, il nous était interdit de nous battre ou de lui rendre des coups. Nous étions cinq, pour la plupart des jeunes hommes valides, et nous aurions pu aisément riposter contre lui et contre les autres ivrognes du geôlier qui nous maltraitaient, si notre principe l'avait permis. Mais nous estimions qu'il était plus courageux et plus chrétien de souffrir patiemment de telles injures pour le Christ que de se battre pour lui ou de nous venger, et plutôt, lorsqu'on est frappé sur une joue, de tendre l'autre que de frapper de nouveau. Quand le prisonnier ivre, qui nous avait tant maltraités, dessoula un peu, il avoua que le geôlier le rendait pire qu'il ne l'aurait été contre nous. Malgré le traitement inhumain du geôlier envers nous, il ne put obtenir notre soumission à ses desseins cupides ni à ses pratiques corrompues visant le gain. Le 19 jour du 2e mois 1656, il entra dans le quartier commun et demanda si nous voulions le payer pour nous y garder. Nous lui demandâmes ce que nous lui devions. Il dit « 14 pence par semaine chacun ». Certains d'entre nous avaient été dans cette prison commune 31 semaines, mais aucun de nous n'avait utilisé sa literie. Quand on nous apportait un peu de paille pour nous coucher, ce que le comté autorisait pour l'usage des prisonniers, nous avions payé le transport, sinon nous n'en aurions pas eu. Nous dîmes au geôlier que, lorsque nous avions demandé une chambre de prison gratuite, il nous avait jetés dans cet endroit, puis il ordonna aux guichetiers d'emporter nos couvertures, disant « emporter leurs vêtements » et ne leur laisser rien que la paille pour se coucher et enlever leurs caisses. Ainsi, le guichetier et le tenancier les emportèrent toutes et ne nous laissèrent même pas notre bonnet de nuit qui avait été suspendu dans un panier contre le mur. De plus, le geôlier menaça d'enlever nos manteaux de sur nos épaules. Nous lui dîmes qu'il pouvait tout aussi bien les prendre aussi, car il avait déjà pris nos autres biens, à savoir nos couvertures, une veste et une cape, et nos boîtes de provisions, c'est-à-dire pain et fromage, du linge et d'autres choses. Alors, dit-il, je ne prendrai pas vos manteaux avant qu'il fasse plus chaud. Nous lui dîmes qu'il ferait honte à sa profession. Il dit, cela n'a pas d'importance, vous êtes tous des hérétiques. Après que les biens susmentionnés nous eurent été enlevés, la fille du geôlier dit, ils vous ont tout volé. Ces biens nous furent retenus environ 24 semaines, durant lesquelles nous fûmes contraints de dormir sur la paille dans nos vêtements. Pourtant le Seigneur nous donna patience et réconfort dans nos souffrances, comme il le fit pour ses serviteurs d'autrefois, qui souffrirent avec joie la spoliation de leurs biens, étant aussi rendus disposés non seulement à souffrir un tel dépouillement, mais à donner nos vies pour l'amour du Christ. Gloire à son nom à jamais, lui qui nous soutint et nous consola ainsi dans nos tribulations. Le 28, Mary Petch, une pauvre amie honnête employée à nous apporter des nécessités, vint à la prison avec du linge pour nous, à savoir 2 chemises, 2 bonnets, 2 cols et 4 mouchoirs. Nous avions été dévalisés du reste auparavant. Le geôlier lui prit toutes et ne voulut pas la laisser nous les remettre. Le même jour, le guichetier enleva le manteau que George Rose portait habituellement. À d'autres moments, il ne permettait pas que nos provisions nous soient remises avant d'avoir arrêté la femme qui les apportait et fouillé dans son panier pour voir ce qu'elle avait amené pour nous. Comme nous ne voulions pas prendre un logement du geôlier à 2 S, 4 D asterisques par semaine chacun, ni lui payer 1 S, 2 D chacun qu'il exigeait pour le temps où nous avions été dans la prison gratuite, le quartier commun, il proposa de nous accorder certains privilèges si nous nous soumettions à ces conditions. Quand nous refusâmes, sa colère continua contre nous à tel point que, le 3e jour du 3e mois, il ordonna à son tenancier d'enlever le chapeau de George Fox, ce que le tenancier fit en le lui ôtant de la tête. Le même jour, la femme du geôlier, plus compatissante que son mari, lui rapporta son chapeau et dit qu'elle ne savait pas que son mari avait ordonné au tenancier de le lui prendre. Astérisque avant 1971, la livre dérivée du mot latin libra était divisée en 20 shillings, chaque shilling valant 12 pence, soit un total de 240 pence pour une livre. Le symbole du shilling était S, non pas tiré de la première lettre du mot, mais du mot latin solidu. Le symbole du penny était D, du mot français denier, lui-même issu du latin denarius. Le solidu et le denarius étaient des pièces romaines. À cette époque, un penny permettait d'acheter une miche de pain. Il existait aussi des pièces d'un demi-penny et d'un quart de penny, farthings. Pour montrer de tels exemples de malice et de brutalité envers nous, certains prisonniers, lorsqu'ils étaient presque ivres, étaient encore encouragés à renouveler leur violence contre nous, surtout l'un d'eux, souvent le plus vil et le plus injurieux, nous battant et nous donnant des coups de pied, et frappant certains d'entre nous au visage, sans qu'aucun reproche ne lui soit fait par le guichetier ou le tenancier, alors qu'il y était présent et savait que nous étions maltraités. Mais au lieu de cela, le tenancier frappa aussi l'un de nous au visage. Pourtant, lorsqu'il n'avait pas bu et n'était pas excité par le geôlier, nous les avions généralement sous contrôle et tranquilles. Mais le 19 du 3e mois, 2 prisonniers frappèrent George Fox Jr. si violemment au visage que le sang lui sortit par la bouche et le nez. Puis, le 21, l'un d'eux cracha honteusement au visage de George Rowe et de George Fox, puis ils les saisirent et les tirèrent par le nez, ce qu'ils nous ont fait plusieurs fois. Le 22e jour du même mois, tandis que George Fox se tenait près de la porte intérieure, un prisonnier lui jeta au visage un pot de charbon et de cendres. Ainsi, jour après jour pendant un temps, nous fûmes maltraités, battus, souffletés, frappés, repoussés à coups de pied et traités outrageusement, sans autre raison que d'avoir témoigné contre l'ivrognerie fréquente, les jurons, la méchanceté et le mauvais gouvernement de cette prison, et d'avoir témoigné contre la tyrannie, la cruauté et le mauvais exemple du geôlier, de son guichetier et du serveur de la taverne. Il serait trop fastidieux d'énumérer tous leurs abus, violences et cruautés contre nous. Comme ils prenaient conscience qu'ils pourraient être exposés, craignant que nous écrivions pour les dénoncer, le guichetier menaça de nous enlever notre matériel d'écriture. Il en enleva effectivement une partie, ainsi que plusieurs papiers, disant que nous ne devions plus écrire, puis il nous surveilla souvent afin d'empêcher notre écriture. le geôlier, avait souvent menacé de nous enfermer dans le quartier des femmes, une pièce basse et infecte, à cause de notre témoignage constant contre leur grossier désordre, permettant aux tenanciers de donner aux prisonniers tant de boissons fortes qu'ils buvaient à l'excès, abusant ainsi d'eux-mêmes et des autres autour d'eux. Au lieu de réformer, le geôlier persévéra dans cette permission injustifiée d'un tel excès et dans le fait de nous punir pour notre témoignage juste. Le 26 au jour du troisième mois, il fit mettre George Rose dans le quartier des femmes. Alors George Whitehead dit au geôlier de bien noter que c'était pour s'être élevé contre l'ivrognerie et les jurons, auxquels lui-même faisait la complaisance qu'il le faisait y mettre. Pour ces paroles, le geôlier le fit aussi bientôt enfermer dans le même quartier, de même George Fox Gier. Et Henry Marshall, notre témoignage étant un. Ainsi nous quatre y fûmes enfermés et retenus près de 2 heures, et lorsque nous demandâmes seulement un tabouret à nous pour nous asseoir, on ne voulut pas nous le permettre. Après nous avoir tous laissés sortir, ils remirent George Rose dans le même quartier et l'y confinèrent environ 4 heures. Pendant que George y était, on lança des pierres par la fenêtre, dont certaines le frappèrent, et le tenancier prit de la boisson forte dans sa bouche et la lui cracha au visage lorsqu'il regardait par la fenêtre. Mais notre punition de la part du geôlier ne s'arrêta pas là. Tandis que George Rose était enfermé dans le quartier des femmes, le geôlier vint à George Whitehead et à George Fox, disant « Si vous persuadez George Rose de se taire, il pourra sortir. » George Whitehead lui dit qu'il ne le persuaderait pas de cesser de crier contre la méchanceté. Alors, dans sa rage, il menaça de nous mettre tous trois dans le cachot et fit sortir George Rose du quartier des femmes et menaça de nous descendre dans le cachot avec une corde de charrette. Mais lui et le guichetier nous firent descendre George Whitehead, George Fox Gier et George Rose par une échelle dans le cachot. Il mettait rarement quelqu'un au cachot à moins qu'il ne fût très crêleur ou meurtrier, car il était environ 4 yards sous terre, très sombre et étroit au fond. Au milieu se trouvait une grille de fer, avec des barreaux séparés par un espace d'un pied, et sous la grille se trouvait une fosse ou un trou de profondeur inconnue. Mais une femme qui eut pitié de nous en nous voyant descendre nous avertit. Nous restâmes donc près des côtés du cachot afin de ne pas tomber dans la fosse. Là nous fûmes retenus près de 4 heures, chantant des louanges au Seigneur notre Dieu, dans la douce jouissance et le sentiment vivant de sa glorieuse présence, sans être le moins du monde effrayé ni abattu par leur cruauté. Au contraire, nous nous abandonnions avec joie à la volonté du Seigneur, prêts à souffrir pour son nom et pour la vérité, même s'il nous avait laissé périr dans ce cachot sombre, lugubre et puant, mais le Seigneur ne le permit pas. D'ailleurs, si le geôlier nous avait retenus et que nous étions morts dans le cachot, il aurait pu être pendu à la potence. Quand nous fûmes sortis du cachot, le guichetier nous enferma dans le quartier commun et permit à un prisonnier malveillant d'entrer et de frapper violemment George Rowe à la tête, sans manifester aucune réprobation à son égard, mais c'était une pratique courante parmi ses persécuteurs, surtout lorsqu'il était ivre. Pendant que nous étions au cachot, plusieurs de nos amis vinrent nous visiter de Norwich, Colchester, Halstead dans l'Essex et d'autres endroits, mais on ne leur permit pas de nous voir, ni à nous de leur parler. À d'autres moments, ils ont agi de même envers nous et nos amis, après qu'ils ont parcouru de nombreux milles pour nous voir. Lorsque nos amis étaient tenus à l'écart, et qu'ils arrivaient à la porte ou à la fenêtre de la prison, certains de la compagnie du geôlier leur ont jeté de l'eau, prétendant qu'il avait un ordre des juges interdisant à nos amis de nous visiter. Pourtant, lui et sa femme leur dirent que, s'ils payaient le guichetier, ils pourraient venir jusqu'à nous. Le guichetier dit à cela que, s'ils lui donnaient 6 dés, ou 4 dés, chacun il les laisserait nous rendre visite, mais ils refusèrent de satisfaire ainsi sa cupidité. Bien des fois, nos amis furent injustement empêchés de nous visiter. Oui, lorsque certains amis de Norwich ont attendu longtemps dehors pour entrer et nous voir, eux et nous avons été déçus et empêchés de nous voir les uns les autres. Ainsi nos amis étaient tenus dehors, et nous étions chaque jour maltraités à l'intérieur. Le prisonnier le plus injurieux envers nous, l'un des ivrognes du geôlier, lança violemment un couteau nu sur l'un de nous, et comme il le manqua, il menaça de tuer certains d'entre nous, disant qu'il pouvait être pendu, mais qu'il n'avait qu'une vie à perdre. Il nous enleva aussi quelques affaires. Nous signalâmes le vol au geôlier et lui dîmes que, si ce prisonnier versait encore du sang, cela serait sur sa conscience. Nous dîmes au geôlier que, s'il désapprouvait ce que l'ivrogne nous avait fait, nous souhaitions qu'il lui ordonnât de nous rendre nos affaires, mais au lieu de cela, il répondit « Qu'il fasse ce qu'il voudra. » Il dit cela à portée d'oreille de ce prisonnier si abusif, ce qui l'encouragea à nous maltraiter davantage, et aussi à maltraiter la femme amie qui apportait nos nécessités, sur laquelle il mit les mains violemment, la poussant en arrière. Cette nuit-là, le guichetier frappa aussi 2 d'entre nous pour avoir réfuté certaines de ses calomnies contre nous, et dit qu'il ne pouvait pas nous traiter assez mal. Ce prisonnier violent, qui avait menacé de tuer certains d'entre nous, pris encouragement de l'exemple du geôlier, du guichetier et du tenancier pour nous maltraiter davantage. Une nuit, après que nous fûmes enfermés et verrouillés dans le quartier commun, il était furieusement ivre et résolu à tuer l'un ou l'autre de nous cette nuit-là. Avec des malédictions, il menaçait sans cesse, rien ne le satisfaisait s'il ne tuait pas l'un de nous. Mais dans la foi au nom et à la puissance du Seigneur, nous lui résistâmes, croyant qu'il n'aurait pas pouvoir de faire du mal à aucun de nous, même s'il tentait, en prenant un tison. Mais nous vîmes que son pouvoir était limité, qu'il ne pouvait blesser, et encore moins tuer aucun de nous. Il avait avec lui, dans le même quartier, un garçon d'environ 10 ans. Comme l'enfant était à genoux près du mur, effrayé de voir son père dans une telle rage, le père ramassa une bouteille de pierre et la lui lança violemment, mais elle le manqua et se brisa en morceaux contre le mur, le pauvre enfant échappant de peu à la mort. Car si cela l'avait frappé à la tête, il aurait probablement tué son fils. Pourtant l'homme, ivre et forcené, persista dans sa fureur, il était déterminé à tuer quelqu'un cette nuit-là, soit son pauvre garçon, soit un autre, sinon il ne serait pas apaisé. Le voyant ainsi résolu au meurtre, il me vint aussitôt avec un grand poids, comme je le croyais du Seigneur, « Ne laissons pas un meurtre être commis en notre présence. » Alors je dis à mes compagnons de souffrance, « Saisissons-le et tenons le pied et poing jusqu'à ce qu'il se calme. » Nous le prîmes aussitôt, le couchâmes doucement sur le dos et le maintîmes fermement, pied et poing, pendant, je crois, plus d'une heure durant laquelle il poussa un cri rugissant, mais en vain, car nous étions tous étroitement enfermés dans un lieu bas et sombre, difficile à entendre depuis les autres parties de la prison, non, j'en suis persuadé, même si l'un de nous avait crié au meurtre, il serait à peine venu quelqu'un pour secourir l'un quelconque de nous. Nous empêchâmes, néanmoins, le meurtre envisagé, en tenant les mains et les pieds de l'ivrogne jusqu'à ce qu'il se calme et s'endorme. Nous lui fîmes promettre, avant de le relâcher, en le surveillant attentivement, de ne commettre aucun méfait. Car bien que nous n'eussions pas de corde pour le lier, nous sentions qu'il fallait le lier ou le retenir pour l'empêcher de nuire, autant que n'importe quel furieux insensé. Bien que le Seigneur nous ait rendus capables de supporter et de souffrir patiemment de grossiers abus et un traitement outrageant, bien plus que ce qui est ici rapporté, sans aucune représaille ni vengeance, pourtant un meurtre doit être empêché, si possible, par tout moyen ou toute contrainte légitime. Comme le prophète Élisée dit, au sujet du messager du roi envoyé pour le prendre, « Voyez comment ce fils d'un meurtrier a envoyé pour m'ôter la tête, regardez, le messager vient, fermez la porte et retenez-le à la porte. » William Dewsbury, dans un véritable amour, vint nous visiter dans la prison de Berry, et apprenant quelque chose de la cruauté du geôlier, lui écrivit une lettre comme suit, pour Robert Newton, gardien de la prison de Berry. « Votre cruauté et votre oppression des innocents sont montées en souvenir devant le Dieu pur, éternel et redoutable. Si vous ne vous repentez pas et ne revenez pas promptement au Dieu vivant, et si vous ne vous appliquez pas avec diligence à sa loi pure dans votre conscience, afin qu'elle vous guide pour cesser votre cruauté, restituer aux serviteurs du Seigneur ce que vous leur avez pris, et mettre fin à votre violence envers eux si vous le faites, il vous sera encore possible de recevoir la miséricorde du Seigneur. Mais si vous persévérez dans votre orgueil et votre entêtement, alors il eût mieux valu que vous ne fussiez jamais né. Le Dieu éternel et redoutable étendra sa main contre vous et exercera sur vous sa vengeance, qui vous blessera dans vos entrailles, de sorte que l'angoisse et la douleur s'empareront de vous. Vous serez tourmenté jour et nuit, en la présence de Dieu et de ses saints anges, et votre part sera avec tous les injustes, dont le ver ne meurt jamais et dont le feu ne s'éteint jamais. Car ce que vous semez, vous le moissonnerez, et vous saurez que ceci est la parole du Seigneur Dieu. Le jour approche, ce que le Seigneur a déclaré, il l'amènera sur vous. Souvenez-vous que vous êtes avertis de votre vivant ainsi vous périssez, votre sang sera sur votre propre tête. William Dewsbury, commentaire de l'éditeur du site. William Dewsbury fut aussi un des premiers ministres Quakers. Il souffrit grandement, passant 20 ans de sa vie en prison pour avoir refusé de payer les dîmes et de prêter serment. Le geôlier fut grandement tourmenté et enragé par cette lettre. Certains abus furent examinés par les magistrats de Berry et nettement établis devant eux en présence même du geôlier. Après que nous eûmes subi un si dur traitement de la part du geôlier, de son guichetier et de son tenancier, ainsi que de certains prisonniers ivres, un compte-rendu fut envoyé à quelques-uns de nos amis à Londres, qui le firent imprimer et en informèrent Oliver Cromwell, le protecteur ainsi nommé, ainsi que son adjoint Fleetwood. Alors un ordre fut donné pour faire enquêter sur les faits dénoncés. Je fus le premier appelé et interrogé le 22 au jour du 3e mois 1656, devant John Clark et Thomas Chaplin, 10 juges, le geôlier était aussi présent. Le 22, George Rose fut également appelé devant certains de ses juges, le geôlier présent. Les abus du geôlier et de ses agents furent prouvés contre lui aux deux occasions, concernant le fait d'avoir frappé George Roy et George Whitehead au visage jusqu'à ce que le sang leur sorte par la bouche. Le geôlier, pour s'excuser et atténuer sa faute, voulut leur faire croire qu'il ne nous avait fait que relever le menton d'un coup et qu'il m'avait pris par le nez. Le 6 au jour du quatrième mois, je fus de nouveau amené devant les juges John Clark, Thomas Chaplin et un certain juge Moody, ainsi que le major Sparrow, pour être interrogé sur ladite plainte. John Clark, qui prit d'abord sur lui d'être notre principal interrogateur ou examinateur, sembla beaucoup favoriser le geôlier, déchirant une note envoyée par un ami pour les avertir d'examiner les choses et de rendre justice sans partialité. Lorsque je la remis, il la déchira aussitôt en morceaux sans la lire, ni permettre aux autres concernés de la lire. Je lui dis qu'il aurait dû voir ce qu'elle contenait avant de l'avoir détruite. Il dit que c'était tout ce qu'il en ferait. Je les avertis alors de veiller à ce que justice soit faite. Mais comme notre écrit était lu et que l'on me questionnait sur les abus qui y étaient rapportés, John Clark ne voulait pas que je réponde point par point selon la lecture, mais disait « lisez-le » et qu'il y réponde ensuite. Or, à mesure qu'il était lu, je répondis aux détails et leur donnai un récit clair des faits de la cruauté du geôlier. Une partie de ce qu'il confessait lorsque je le pressais sur les détails, en particulier l'enlèvement de nos biens ou nécessités, qu'il avait ordonné aux guichetiers de nous prendre, avec d'autres torts, violences et brutalités à notre encontre. Certains juges présents reconnurent que le geôlier était en faux et l'avertirent de ne pas laisser ses serviteurs nous maltraiter, car s'ils le faisaient, ils les enverraient à la prison d'Ipswich, et ils louèrent George Whitehead d'être un homme modéré. Le même jour, George Rose fut aussi de nouveau interrogé et fit encore apparaître comment le geôlier nous avait maltraités et usé de violence envers nous, frappant lui et George Whitehead au visage jusqu'à ce que le sang leur sorte par la bouche, et comment son tenancier l'avait frappé plus de 10 fois et lui avait craché de la bière au visage. Le geôlier avoua que tout ce que nous avions écrit au sujet de l'enlèvement de nos affaires était vrai, mais parce que George Rose l'avait repris pour sa cruauté, le juge Clark dit au greffier d'écrire que c'était pour avoir agressé le geôlier, plaidant partiellement pour atténuer sa faute. Voyant une telle partialité, nous ne pouvions attendre qu'un récit complet et fidèle fût transmis à Oliver Cromwell, protecteur, mais que nos souffrances se prolongeraient, comme elles le furent, quelque temps encore après que ces griefs eurent été clairement manifestés au juge. Cependant, le fait d'avoir révélé la cruauté du geôlier eut quelque effet sur lui, bien qu'il fût extrêmement contrarié d'être ainsi exposé. Cela lui inspira néanmoins quelques craintes et quelques retenues. Et pendant un temps avant notre libération, nous connûmes davantage de tranquillité, bien que l'ivrognerie et bien des désordres, et un gouvernement terrible, fussent tolérés et continuassent dans cette prison. Lorsque, dans la crainte de Dieu, j'ai parlé au geôlier et témoigné contre lui, pour permettre des pratiques mauvaises afin de gagner de l'argent, sa réponse habituelle fut « va-t'en, diable, etc. » Quand George Rose le reprenait, le geôlier criait en s'approchant « Voilà la grande bouche, voilà la grande bouche !» et parce que George Rose lui parlait un peu plus fort, contre le fait de laisser tant d'ivrognerie dans la prison. Le geôlier était un homme faisant profession de religion, membre d'une église et instructeur d'autrui, et selon sa fille, un saint depuis 40 ans, et sans doute fut-il pour cela davantage favorisé dans l'examen par son voisin John Clark en raison de sa religion, de son appartenance et de sa communion. Lorsque le traitement barbare et les privations que nous endurions en prison furent connus au dehors, nos amis à Londres se préoccupèrent avec compassion de nous secourir et s'adressèrent donc plusieurs fois à Oliver Cromwell, en particulier par l'entremise de Mary Sandé, une amie à nous, qui était servante et femme de compagnie dans la maison de Cromwell. Elle saisissait souvent des occasions pour lui rappeler notre état de souffrance et celui d'autres amis également enfermés dans des prisons, comme elle me l'a souvent dit. Elle épousa ensuite notre bien-aimé ami Henry Stout de Hertford. Elle fut un bon exemple dans la maison d'Olivier Cromwell tant qu'elle y vécut, et elle demeura dans son intégrité, dans la vraie foi chrétienne et l'amour des amis jusqu'à la fin. Anne James, de Londres, qui épousa ensuite notre cher ami Robert Duncan, se soucia de nous avec tendresse lorsque nous étions dans la prison de Bury. Elle informa aussi Oliver Cromwell de notre cas et rechercha notre soulagement, qui fut enfin obtenu, après que j'eus souffert 15 mois ou plus dans cette prison, et que le reste de mes compagnons de captivité eurent souffert plus d'un an, sauf Henry Marshall, qui souffrit près d'un an. Nous tous, Dieu le sait, étions sous une contrainte sévère et de grandes privations. Pourtant je demeure encore, avec vérité et humilité, reconnaissant envers le Seigneur notre Dieu, en souvenir de sa grande bonté envers nous, comment merveilleusement il nous a soutenus et consolés au travers et au-dessus de toutes ces tribulations, étroites détentions et mauvais traitements, et comment il nous a conservés en bonne santé. Dans la jouissance réconfortante de sa glorieuse puissance et présence divine, plusieurs d'entre nous ont souvent été conduits à chanter à haute voix en louange de son nom glorieux. Oui, ces hautes louanges ont été dans nos bouches bien des fois, à la grande surprise et au grand étonnement des criminels enfermés dans le même quartier que nous. En y marchant, nos cœurs étaient souvent élevés dans une louange vivante au Seigneur pendant plusieurs heures d'affilée, avec des voix de mélodie. Oh, la douce présence et la puissance du Seigneur notre Dieu, combien elles sont précieuses à goûter dans les prisons et les cachots, et dans les étroites détentions. Ô mon âme, bénis encore le Seigneur, et loue pour toujours son excellent nom, pour le vrai sentiment intérieur et l'expérience que tu as souvent et longtemps eue, et que tu as encore, de sa puissance divine et de son ineffable bonté. Gloire et domination à notre Dieu, et à l'agneau assis sur le trône, au siècle des siècles. Que la louange soit rendue à celui en qui est notre aide, notre salut et notre force. Bien que nous fussions confinés dans un quartier commun bruyant et dans une cour étroite et puante, sans aucune commodité, pourtant le Seigneur, par sa puissance, sanctifia si bien cette détention pour moi, que j'eus une grande paix, du réconfort et une douce consolation. Et parfois j'étais comme transporté, enveloppé en esprit, comme si j'étais dans un champ agréable, percevant le parfum et la douce odeur des fleurs et des choses qui y croissaient, bien que je ne fusse pas en extase ni en transe, mes sens étant affectés de cette main. Le Seigneur rendit l'âme doux pour moi, et les privations faciles, bien que nous sentissions que nos persécuteurs et oppresseurs étaient si cruels envers nous qu'ils n'auraient pas eu de regret si nous avions tous péri dans cette prison. Mais notre confiance et notre assurance étaient dans le nom du Seigneur Jéhovah, en qui est une force et une sécurité éternelle, à lui la gloire, la domination et la louange à perpétuité sans fin. J'espère et je me confie humblement dans le Seigneur, je n'oublierai jamais sa bonté et sa miséricorde manifestées envers moi, en ces jours obscurs de détresse et d'affliction. Une copie de notre mise en liberté jeudi, le 16 octobre, au Conseil à Whitehall. Est ordonné par Son Altesse le Lord Protecteur, et par le Conseil, que les Quakers emprisonnés à Colchester dans le comté d'Essex, et à Edmondsbury Ipswich dans le comté de Suffolk soient aussitôt relâchés et remis en liberté, et il est renvoyé à ce Francis Russell le soin de veiller à ce que cela soit fait en conséquence, ainsi que de considérer comment les amendes imposées sur eux, ou sur l'un d'entre eux s'il y en a, pourront le plus commodément être levées et remises, et pareillement de donner ordre qu'après avoir. W. Jessop, greffier du Conseil. Conformément à cet ordre, ce Francis Russell prit un soin particulier à le faire exécuter. Il envoya son clerc à la prison pour nous voir mis en liberté, ce qui fut fait en conséquence, et par bonté pour nous, il nous donna un ordre ou mandat à produire pour notre défense, s'il y avait lieu, afin que nous puissions voyager sans être inquiétés ni interrompus, ne nous obligeant pas à aller dans nos demeures respectives. C'était un homme réfléchi et d'un esprit tendre, et il montra de la compassion envers nous et nos amis, qui souffraient pour cause de conscience envers Dieu, il se montra clairement opposé à la persécution. D'après la bonne opinion que j'avais de lui et la bonté qu'il nous avait montrée dans nos souffrances, j'allais lui rendre visite en 1659, en passant dans les environs, ce qu'il prit avec bienveillance et me reçut pour un entretien religieux et amical. Dans notre conversation, il laissa entendre qu'il s'était beaucoup opposé à la sévérité des châtiments infligés à James Naylor, lorsqu'il fut poursuivi devant la Chambre des communes, en l'année 1666. Suite à la partie I, le but de ce site web est de montrer comment être délivré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.